I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
T'entends là?
Oh, je parle. Bonjour, Soline Le Désert.
Bonjour, maintenant.
Alors, on va essayer de pas trébucher.
Alors, on est actuellement en train de tenir plusieurs fils dans nos mains.
Oui.
Dans un appartement du 17e arrondissement.
Absolument.
Alors qu'il pleut dehors.
Voilà, mais c'est bien.
Ouais, c'est très très bien.
Moi j'aime bien la pluie, je trouve ça apaisant.
Apaisant, ouais.
Ouais.
Cool, ça te fait rester chez toi et...
Ouais, de toute façon, je reste chez moi de base tout le temps, donc quand même, principalement.
Ouais. Plutôt casanier, alors.
Ouais, plutôt casanier, ouais. Ouais, ouais. Oula, oula.
Ouais, c'est un début d'interview un peu spécial, parce que je pense que t'as pas l'habitude d'être interviewé. C'est plutôt la
non,
personne qui interviewe.
C'est ça, absolument.
Donc là, tu t'es auto-invité dans ton podcast.
Voilà, c'est le privilège de faire un podcast, c'est que tu peux à un moment faire un épisode sur toi. Non, mais il y avait pas mal de gens qui me disaient qu'ils voudraient entendre un truc sur moi, et je sais pas. Je veux dire, je voulais pas le faire trop vite parce que j'ai pas envie de faire genre 10 épisodes de Nouvelle École et hey, maintenant c'est Antonin Archer sur Nouvelle École, parce que c'est, enfin, le but c'est pas de me montrer moi. Je le fais déjà assez à travers mes articles et puis j'interviens beaucoup quand même dans le podcast. Quand, dans les interviews, je parle beaucoup.
Ouais.
Et ensuite, j'ai pensé à le faire en marcher-parler un peu à la Navo, c'est-à-dire où je marche avec mon téléphone et je m'enregistre sur un sujet. Mais bref, j'étais pas non plus complètement chaud, et comme ça revient vraiment beaucoup dans les messages que je reçois, dans les commentaires, etc., les gens qui aimeraient bien en savoir plus sur moi, apparemment, je me suis dit, qui est-ce qui pourrait le faire ? Et donc j'ai pensé à toi, Soline,
okay.
Puisque tu me connais, tu viens de perdre ton écouteur.
Ouais, je te connais.
Alors vas-y.
Bah écoute, quelles sont les questions que les gens te posent justement sur toi ?
Bah je sais pas, en fait, j'ai pas une liste de questions, ils me disent juste quand est-ce qu'on fait un épisode sur toi, parce que je pense qu'ils veulent en savoir plus sur mon parcours, je dirais, et sur pourquoi je fais ça, comment je le fais, qui je suis, quoi, en gros, je pense.
Ouais.
Enfin, en fait, un peu comme quand j'invite des gens sur Nouvelle École,
ouais,
le but, c'est de savoir qui c'est,
ouais,
et qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font, surtout,
ouais,
d'où ils viennent.
Je et t'as déjà des réponses à ces questions ? Pourquoi t'as lancé Nouvelle École ?
Ouais, j'ai lancé Nouvelle École parce que j'étais... je sortais de. Est-ce que j'étais déjà sorti d'HEC ? Ouais, en train de finir HEC. Ma dernière année à HEC, c'était un peu n'importe quoi parce que c'est. Très honnêtement, moi j'avais déjà compris à l'époque que je voulais lancer des projets, etc. Je me mettais beaucoup la pression pour être entrepreneur et tout, surtout en revenant de San Francisco, là-bas où vraiment là-bas tout le monde a 18 ans, a levé 100 millions et dans les journaux et les sites internet, tu vois. Et toi, tu te dis vraiment qu'est-ce que je fais ? Quelle est ma place ? Et donc, cette dernière année à HEC, c'était vraiment la presse pour moi. J'arrêtais pas de lancer des petits trucs qui marchaient pas, j'essayais de me chercher, quoi, de trouver ce que j'avais envie de faire. Et en fait, j'écoutais des podcasts. Je consommais beaucoup, disons, de bouquins de business, de bouquins de self-help, de bouquins. Enfin, je m'étais remis à lire, en fait, parce que j'avais arrêté pendant un petit moment. Et là, je m'étais remis à beaucoup, beaucoup lire, c'est-à-dire lire 1 à 2 heures par jour. Et essayer de savoir, et puis j'apprenais tellement plus dans ces bouquins qu'en cours, parce qu'en fait à HEC la valeur c'est pas vraiment les cours, c'est autre chose, que je m'étais dit, et comme j'écoutais ce podcast, je m'étais dit c'est trop bien ce podcast, et en fait c'est marrant, moi j'entends tous ces mecs des États-Unis qui ont des vies trop intéressantes, des idées trop intéressantes, mais en fait je suis le seul à les entendre dans mon cercle, mes potes les entendent pas, tu vois, et ma mère les entend pas, et mon frère et ma soeur les entendent pas, et du coup je m'étais dit c'est marrant, il y a pas ça en France, donc il y avait deux trucs cool, c'est que un, il y avait pas ça, donc peut-être que je pouvais faire un truc. À l'époque, je cherchais quand même un truc à faire. Et deux, je me disais, bah peut-être que je peux diffuser un message que j'ai envie de diffuser, qui est finalement le message de se lancer, de pas se sentir enfermé dans des cases, de d'avoir des idées, quoi. En fait, la vie, ça peut être un truc vraiment proactif où tu choisis de comment elle va se dessiner, plutôt qu'un truc passif où on te dit, ah bah tiens, t'as fait une école d'ingé, alors maintenant tu vas être ingénieur et tu vas bosser dans une grande boîte parce que les grands ingénieurs bossent dans des grandes boîtes, et puis finalement on s'en fout un peu de savoir si ça te fait plaisir ou pas, tu vois. Et voilà, je voulais juste, je pense que très tôt je me suis demandé, est-ce que ça me plaît ce que je fais, est-ce que c'est fun, est-ce que je veux, tu vois, bon, pour plein de raisons, mais voilà pourquoi j'ai lancé Nouvelle École.
Et tu te sens, est-ce que tu te sentais enfermé dans une case à un moment dans ta vie?
Bah, je me sentais surtout enfermé dans un bled, parce que j'ai quand même grandi dans un village de 600 habitants, dans lequel j'étais pendant longtemps. Je suis parti en internat à Chambéry quand j'avais 15-16 ans, mais le week-end je rentrais chez ma mère, et puis pendant les vacances aussi, tous mes potes étaient là-bas. Et donc, ouais, il y avait un côté... j'étais vraiment dans un endroit qui n'existe pas, tu vois. Et quand tu grandis dans ces endroits... Donc, mon village avait 600 habitants... La ville la plus proche avait 3000 habitants, elle était à 2 km, fallait y aller à pied ou en stop. Enfin, ou je sais plus, 3-4 km. Et la gare la plus proche était à 20 minutes en bagnole pour aller à Chambéry, qui était genre à 20 minutes, une demi-heure en train, tu vois. Et du coup, vraiment, t'es au milieu de nulle part. Et en fait, tu vas jamais dans les villes parce que c'est une galère. On faisait beaucoup, beaucoup de stops, mais c'est pas hyper facile. Et du coup, ta vie, elle est là-bas. Et en fait, ton monde, il est tout petit. Et c'est marrant parce que tu t'en rends pas compte. En fait, les gens que tu vois à la télé, ils existent qu'à la télé, tu vois. Si tu vois, je sais pas, si tu vois Sarkozy à la télé, à l'époque, tu te dis pas que Sarkozy, il existe en chair et en os quelque part, c'est juste un mec à la télé, tu vois. Et du coup, ouais, il y avait vraiment un sentiment de... En fait, je pense que la différence entre moi et pas mal de mes potes, c'est que moi, j'avais de la famille de Paris, en fait. Mes parents venaient de Paris. Mes deux parents venaient de Paris, même si ma mère avait bougé. Mes grands-parents étaient tous à Paris. Et je venais de temps en temps, pour Noël, pour... Et quand j'arrivais à Paris, bah voilà, c'était Paris, c'était énorme, c'était gigantesque, tout le monde faisait des trucs un peu différents, j'en avais jamais entendu parler, je comprenais rien à ce qu'ils faisaient, mais je voyais qu'il y avait des gens qui avaient de l'argent, tu vois, et c'était vachement différent. Et du coup, j'avais toujours cette petite fenêtre ouverte où je me disais, en fait, il y a autre chose, tu vois, et je pense que c'était ça la différence, c'est une question de perspective, qui faisait que du coup, je me disais, ouais, mais il y a autre chose, donc il est hors de question que je passe ma vie là, alors qu'en fait, il y a plein d'autres endroits où t'as la vie, encore une fois, tu la dessines un peu comme tu veux. Et, donc ouais, là il y avait vraiment le sentiment, surtout au moment où je faisais de la musique moi, et à un moment vers mes 16-17 ans ça s'est arrêté parce qu'il y a eu plein d'histoires, enfin des trucs de potes. Hein. Et là, voilà, j'avais 17 ans, j'avais redoublé ma première S, j'avais fait n'importe quoi, j'allais jamais en cours, à l'époque vraiment je cherchais la moindre excuse pour faire un peu le con, etc., faire un peu le cool kid du lycée, tu vois, je faisais du rock et tout. Et on avait bloqué le lycée, on faisait des manifs à la con pour des trucs qu'on comprenait même pas. Et quand mon groupe s'est arrêté, j'étais nul, j'étais dans un lycée tout pourri parce que je m'étais fait plus ou moins virer de l'autre. Donc là, j'étais à un internat avec que des kairas, où mon premier internat, c'était genre des petits box 2-3 avec tes potes et tout. Là, c'était un grand dortoir de 100 lits avec aucun mur, que des rideaux, avec le pion qui passait dans le couloir et qui disait maintenant vous faites un peu moins de bruit, t'entendais, ferme ta gueule fils de pute, et le mec passait et allait s'enfermer dans son bureau. C'était pas tant oppressant que ça, c'est juste que c'était enfin tu vois, c'était pas grave, il y avait aucune violence, j'avais jamais d'embrouille ni rien, c'est juste que là il y avait vraiment un côté putain merde, où est-ce que je suis, tu vois, qu'est-ce qui va m'arriver, et ça a coïncidé et c'est là que je pense que j'ai vraiment commencé à me dire bon, la musique c'est pas comme ça que tu vas sortir de là. Pas pour l'instant, en plus je pense que j'en avais vraiment marre de la musique, j'avais vraiment porté mon truc tout seul pendant vachement longtemps, et en fait quand tu portes le truc tout seul et comment ça s'arrête, il faut vraiment beaucoup de force à mon avis pour le relancer, et moi je l'avais pas à ce moment là et je me suis dit et en fait là il s'est passé des choses qui ont fait que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce que je faisais en cours, ou en tout cas à me dire il y a des trucs intéressants peut-être dans les études, et c'est devenu un peu ma nouvelle porte de sortie, quoi. Mais quelle était ta question? Déjà, est-ce que je me suis senti enfermé? Ouais, putain. Oui.
Du coup, t'en es sorti après ton lycée? T'as commencé
à bosser? En fait, j'ai tenté Sciences Po Grenoble. En fait, en terminale, je me suis dit, bah vas-y, Sciences Po, ça a l'air cool. Et sauf que j'étais nul, hein, vraiment. Très clairement, j'étais nul au lycée, quoi. Je faisais rien, en fait, je travaillais pas.
Mais t'avais des mauvaises notes?
Non, pas spécialement, mais Bon, j'avais redoublé la première S que j'avais des notes pas possibles, mais j'étais plutôt doué, j'avais plutôt des facilités. Donc j'avais des notes correctes, sans travailler. En fait, je croyais que je travaillais quand je bossais une heure, tu vois. Et en fait, donc je tente même pas Sciences Po Paris, parce que je me dis, je vais pas l'avoir, ça sert à rien. Et je tente Sciences Po Grenoble. Genre un peu, j'arrive en mode... je me souviens, j'arrive devant Sciences Po à Grenoble, il y avait tout plein de gens que je connaissais, qui avaient grave taffé, qui étaient super sérieux. Et moi, j'arrive genre avec un bouquin roulé dans la poche, genre je suis trop un mec à la cool et tout, je vais l'avoir tranquille. Et je chope, je passe 6 sur 20 et 5 sur 20, tu vois. J'étais chez mon grand-père en vacances et j'étais tout seul, je regarde les résultats et je fais ouais, bon. Ok, donc là, petite leçon d'humilité, tu vois, qui fait du bien. Et là, je me dis, mon deuxième choix, c'était d'aller en fac de droit. Et je me dis, bon, ben, on va jouer en fac de droit, tu vois. Et en fait, je me suis grave intéressé à la fac de droit. Je trouvais que c'était génial. Il y avait plein de nouveaux trucs que j'avais jamais entendu parler, qui étaient très proches finalement de Sciences Po.
Ouais.
Plein de trucs sur les institutions françaises, l'histoire, un peu de géopolitique en fait. Qu'est-ce qu'il y avait dans la Constitution, comment ça fonctionnait. Ça parlait vachement de rapports de société, etc. Donc c'était hyper intéressant. Et là, je me suis mis à bosser. Alors là, j'ai compris. En fait, c'était très, c'était très simple comme équation. Les mecs te disaient, en fait, si tu bosses beaucoup à la fac de droit, t'as des bonnes notes. Et je pense qu'à cette époque-là, c'était un schéma qui faisait du bien, c'était simple. En fait, je me suis dit, bah, vas-y, je vais essayer de bosser beaucoup. Et donc, je suis allé, un de mes premiers profs avait dit, en fait, si vous voulez réussir à la fac de droit, vous venez à 8h à la bibliothèque, vous venez à 8h sur le campus, vous partez à 19h. Si vous avez cours, vous allez en cours. Si vous n'avez pas cours, vous allez à la bibliothèque, tu vois. Et je me suis dit, bah, vas-y, je vais essayer de faire ça. J'avais jamais fait ça. Pour moi, ça me paraissait infaisable, quoi, de travailler. Et en fait, c'était pas du tout infaisable. Tu suffis de poser ton cul et de bosser. Et j'ai eu des bonnes notes. Ouais. Et là, j'ai commencé à me dire, en fait, ça va, je suis pas nul. Peut-être que. Et je m'étais dit à l'époque, je vais faire 3 ans de droit et je retournerai Sciences Po Paris en master. Et en fait, j'ai croisé une fille à une soirée. Donc, j'étais un peu amoureux d'ailleurs à l'époque. Et en fait, elle l'avait eu Sciences Po Grenoble. Et moi, je me souviens que j'étais deg parce que je l'avais pas eu. Et je l'ai croise et elle me dit, mais en fait, tu devrais trop faire le concours d'accès direct, je sais pas quoi, tu pouvais entrer en passerelle en deuxième année. Je fais ah bon et tout, ok, vu que c'est elle qui me l'avait dit, je me suis dit ouais, pourquoi pas, tu vois, peut-être qu'il y a moyen de retomber dans la même promo qu'elle, on sait jamais. Et du coup, je m'étais mis à bosser, et là en fait, il y avait toute l'expérience de l'année de droit, plus toutes mes connaissances, puis c'était un sujet que je connaissais un peu, et là j'ai réussi le concours. Et donc voilà, encore une fois, j'ai oublié quelle était la question, mais on en est arrivé à là. Voilà comment j'ai commencé à bosser. Et en fait, après, c'était, je pense que dans la vie, c'est vachement des cercles vertueux ou pas, tu vois, ou vicieux.
Ouais.
Et ça, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que quand tu commences à bosser et que tu te rends compte que ça paye, et ça paye toujours, hein, tu te dis, ah, bah, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, je croyais trop que fallait un peu être un génie, tu vois. Ouais. Tu sais, j'avais raté Sciences Po, mais c'est parce que j'étais pas aussi bon que les autres, tu vois. Ouais. En fait, non, c'est juste que j'avais rien foutu. Donc quand tu commences à capter ça, les choses se simplifient, et en fait moi ça a vachement cassé de barrière. Je me disais bon bah voilà, cool, j'ai suivi, maintenant qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Et c'est ensuite que j'ai joué dans d'autres trucs, quoi.
C'est pas un truc que du coup t'essayes de retransmettre avec Nouvelle École aussi?
Je vais lâcher le fil parce que je tiens le fil depuis une heure. Ça sert à rien. Si, est-ce que c'est un truc que j'essaie de retransmettre? Ouais, je veux vraiment. Je pense que mon plus gros apprentissage, c'est qu'en fait, toutes les barrières que tu te mets sont vraiment des barrières mentales, comme quand t'es dans un village et que tu vois des gens à la télé et que tu te dis, je serai jamais à la télé, parce que c'est des autres gens, c'est un autre monde, j'ai pas le droit, j'ai pas accès. Et en fait, trop pas, tu vois. En fait, c'est que des gens comme toi et moi qui sont finalement pas... Même les mecs qui partent avec un avantage énorme sur au niveau culturel, au niveau éducation, au niveau famille, sont pas si loin, en fait, tu vois. Même les grands génies, tu vois, même les Steve Jobs, en fait, sont pas si loin que ça, tu vois. Tu pourrais très bien discuter avec Steve Jobs, tu te sentirais pas du tout débile. Enfin, mais en tout cas, Steve Jobs, c'est clair que jamais il va se dire, je peux pas faire ça, tu vois. Et c'est l'énorme différence entre lui et plein d'autres mecs. C'est qu'il va jamais s'interdire un truc. Parce qu'il sait qu'en fait, les barrières, c'est que des trucs mentaux, quoi. Bon, si t'as une jambe en moins, c'est sûr que devenir footballeur professionnel, c'est compliqué, mais tu vois, c'est pas ce dont je parle.
Et après, dans ta vie, t'as revécu des épisodes comme ça où tu t'es un peu sauvé par le travail? Ou en appliquant une mécanique
Mais oui, mais en fait, moi, je voulais revenir à Paris, en fait. Moi, je me sentais vraiment lésé, dans un sens, du fait que ma famille avait... Mes parents étaient nés à Paris, avaient fait toute leur jeunesse à Paris, mes grands-parents étaient à Paris, mes cousins étaient à Paris, et moi, j'étais dans un village qui s'appelait Arvillard, en Savoie, Et après, j'ai étudié à Grenoble et tout, mais j'étais là, moi, j'ai envie d'aller à Paris. J'ai trop envie d'aller à Paris. J'ai l'impression que je devrais être à Paris, tu vois. Ce qui est débile, hein, mais bon, bref, c'était comme ça que je le sentais. Et donc, je me suis rendu compte... Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'étais à Sciences Po et j'ai fait un stage en compta en deuxième année. Et ce stage en compta, c'était la révélation parce que... Déjà, je m'étais fait transférer de la section service public à la section économie parce que je m'étais rendu compte que bosser dans l'administration, c'était pas, ça rimait pas spécialement avec liberté.
Ouais.
Et c'était déjà important pour moi, je pense, à l'époque, la liberté. Et j'arrive dans un stage, je me dis « T'as trop cool, j'ai un stage dans le privé et tout, vas-y, on va voir comment c'est. » Et je me retrouve avec des mecs qui sont là depuis 30 ans, qui ont aucune idée de pourquoi ils sont là, juste le temps est passé en 5 minutes parce que ça fait 30 ans qu'ils plient des enveloppes et qu'ils mettent des lignes dans des logiciels. Et les mecs très sympas au demeurant, hein, mais juste en fait, à un moment, je demande au mec à côté de moi depuis combien de temps il est là, et le mec réfléchit et il fait « Oh, ça fait 20, 25, 20, 30 ans !» Et il me fait « Oh là, ça passe vite quand même, tu vois !» Moi, je le regarde, et là, genre, vraiment, je me dis, je commence à transpirer, quoi. J'ai envie de faire comme dans l'auberge espagnole, de sortir en courant et d'aller vivre une vie de folie, à la Oscar Wilde. Parce que je me dis, c'est pas possible. Et je me souviens, on parle beaucoup de Booba, sur ce truc, mais, j'avais écouté une interview de Booba, mais peut-être à l'époque, en plus, où il disait qu'il avait fait un BEP vente. Et qu'en fait, à un moment, il avait fait un stage, et le mec l'avait emmené dans un rayon à Carrefour ou je sais pas où, et qu'il y avait un chef de rayon, et que le mec lui avait dit, alors voilà, tu vas mettre les produits dans les rayons, et que le mec avait genre 50 ans, et que Booba s'était vu genre, tu sais, bosser 30 ans dans un rayon, et que, du coup, il a dit, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Et moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Et en fait, je suis rentré à Grenoble, et il y avait un type de ma promo qui passait les concours d'école de commerce, HEC et tout ça, et j'avais commencé à le voir, à prendre des déjeuners avec lui. Il sortait avec une pote de pote. Et je lui ai dit, mec, alors vas-y, c'est quoi? Comment ça sert à quoi? C'est comment? Je connaissais très peu, moi. Moi, déjà, Sciences Po, je connaissais pas avant la terminale. C'est en terminale que j'ai entendu parler de ça. Et en fait, HEC, j'en ai entendu parler en deux ans après la terminale, en fait. Et du coup, il me dit, bah voilà, je passe les écoles de commerce, après tu vas bosser dans le privé, tu peux bosser dans des boîtes un peu internationales et tout ça, tu peux gagner de la thune, tu vois. Je suis là, ouais, ça a l'air cool, comment on fait? Et donc là, je me suis inscrit, il fallait que je fasse tout un micmac, je me suis inscrit dans une licence par correspondance à faire en un an, parce qu'il fallait que j'aie une licence pour passer à HEC, parce que ça suffisait pas d'avoir le bachelor de Sciences Po, bref. Et là, là je me suis chauffé quand même. Mais je me suis pas autant chauffé qu'un mec qui fait une prépa. Eux, c'est un truc de ouf, genre on les oblige à bosser 20 heures par jour, ce qui est débile, je trouve, complètement, mais ultra débile. Mais bon, toi, je sais que t'as fait une prépa, donc on les fait bosser, tu sais, 15 heures par jour pendant 2 ans. Et moi, c'était pas du tout ça. J'avais finalement une vie assez variée, assez équilibrée. J'avais Sciences Po, j'avais la fac d'éco, je préparais HEC, mais j'avais mes potes aussi. Et en fait, je passais aussi Sciences Po Paris. Et je passe Sciences Po Paris et je le réussis vraiment. Je me dis, ok, c'est bon, je l'ai réussi.
À l'écrit,
à l'écrit, je me dis, j'ai fait un bon truc, ouais. Mais je savais pas ce que ça allait donner. Mais je suis pris à l'écrit, j'arrive à l'oral, et là, les mecs sont trop sympas, genre, je sais pas pourquoi.
Le jury.
Ouais, mais trop cool. Genre, bonjour monsieur, on est vraiment content de vous voir, et tout à quoi. Vous avez eu une super note à l'écrit, c'est là bon et tout. Moi, j'avais vraiment un stress, hein. Je m'attendais à good cop, bad cop, j'allais me faire démonter et tout, pas du tout. Et les mecs me disent, oh, bah, merci, voilà quoi, à bientôt et tout. Je suis là, ok, donc je sors, je pense, me dis, bon, moi, je pense que je l'ai. Et là, je rentrais à Grenoble, et en fait, là, il y avait tout un truc qui s'était enlevé de ma poitrine, quoi. Genre, pour moi, c'était genre, c'est bon, quoi, je vais à Paris. Et, pour moi, j'étais Rastignac, quoi, tu vois. Genre, j'allais arriver à Paris et dire, à nous deux maintenant, je vais conquérir le monde et tout. Et en fait, après, j'avais aussi passé HEC et tout, que j'avais pas spécialement trouvé que j'avais bien réussi, mais j'avais eu des notes de ouf. Et ça, c'était une énorme surprise, pour le coup. Vraiment, je me réveille, on s'était bourré la gueule, mais hardcore avec mes potes la veille. Je me réveille à 8h du mat parce que j'arrivais plus à dormir et je regarde les résultats et j'avais eu des super notes. Et donc on a mis beaucoup de Booba très fort dans l'appartement pour fêter ça. Et après, ouais, vas-y.
T'as choisi HEC alors ?
Ouais, parce que moi je voulais faire. J'avais déjà vu Sciences Po en fait. Bon, j'étais un IEP de province, mais. Et moi je voulais. À l'époque j'étais vraiment en mode. Je vais faire du bosser dans le privé, faire du business, j'en sais rien, tu vois. Mais je me disais, j'y comprenais rien, je savais même pas ce que c'était. Moi quand je suis arrivé à HEC. Tout le monde se connaissait. Moi, j'étais un blédard, quoi. C'est-à-dire que j'avais des fringues pourries, j'avais pas les codes. Je me souviens une fois, je suis arrivé à l'anniversaire d'une fille. Je m'étais dit, il faut que je m'habille un peu stylé. Je m'étais acheté un vieux cardigan. Enfin, maintenant, je vois la photo, j'ai tellement honte de comment j'étais arrivé. Tu sais, vraiment le mec qui sait pas, comme dans les films un peu, tu sais,
ouais.
Le mec qui est pas à sa place et qui essaye de
de se fondre dans la masse, mais c'est le seul mec que tu vois parce que tout le monde est habillé, tout le monde avait genre un, je sais pas, un jean bleu et une chemise bleu ciel, tu vois, standard quoi, truc de HEC de base. Et moi j'avais genre, enfin rien à voir quoi, avec mes, j'avais mis Adidas Superstar rouge, enfin bref, génial. Et pourquoi on disait ça déjà?
Comment t'as commencé l'école, comment tu t'y es adapté?
Voilà. Je sais plus pourquoi. C'est arrivé sur ça, cette histoire des codes et tout que j'avais pas. Mais.
T'étais Rastignac.
Ouais.
Tout ça pour dire que t'as voulu monter à Paris, sauf que t'es arrivé à HEC qui n'est pas à Paris. Est-ce que ça a été.
Non, c'était pas grave parce que c'était à Paris. En fait, HEC, c'est pas dans Paris, mais l'important c'était d'être à Paris. Et HEC, tous les gens qui sont à HEC, ils vont être sur Paris ensuite. Donc en fait, c'était créer un genre de. Je savais que si j'étais à HEC, j'étais à Paris, tu vois.
Ouais.
Genre, il n'y avait pas de... Tu vas me faire bouger ? Non ?
Non, non.
Il n'y avait pas de... C'est pas parce que t'es sur le campus que t'es pas à Paris. Ouais. Ça marche pour les étrangers, peut-être, mais... Moi, je m'en foutais d'être dans la ville. Mais je voulais être dans cette zone, tu vois. Et à HEC, j'étais à Paris et je savais que... Après, j'aurais mes opportunités à Paris, etc.
Ouais.
Et en fait... tu sais, moi, j'ai vraiment... chercher vraiment quand je suis arrivé à HEC, j'ai cru très très vite que le truc le plus stylé à faire c'était en fait j'en avais aucune idée de tous ces trucs, je savais même pas ce que c'était la finance, le ouais. conseil, j'en avais aucune idée, je ouais. savais pas, j'étais un peu une je me sentais un peu comme une fraude dans un sens, tu vois. Au week-end d'intégration, j'avais zéro pote. Et moi j'étais en deuxième année, en plus j'étais encore rentré en accès direct, donc j'avais pas fait la prépa, j'avais pas fait la première année, et j'étais au week-end d'intégration et j'avais aucun pote et il fallait que je parle à tout le monde, que je me fasse des potes. Et ça
c'est arrivé en deuxième année en fait.
Ouais.
Okay, d'accord.
Et ça, c'est un truc que j'ai dû faire en fait à chaque école. Et je pense que pour le coup, ça a été très très bénéfique. D'à chaque fois arriver, tu connais personne, tout le monde a tous ses potes. C'est un peu comme pour les gens qui ont beaucoup déménagé. Et pour le coup, j'avais un peu déménagé aussi. T'arrives et tu connais personne et tu dois te faire des potes. Du coup, t'as, je pense, une capacité d'adaptation qui en bénéficie. Et à HEC, je croyais que le truc cool c'était la finance et j'étais allé à un forum finance où tout le monde est habillé en pingouin. Moi, j'avais mon costard à 150 balles que j'avais dû acheter pour le gala de Sciences Po 2 ans avant, tu vois. Et tout le monde est genre, c'est totalement n'importe quoi, ces trucs. T'as genre, en fait, c'est un grand hall dans HEC avec plein de stands de banques. Et c'est genre Morgan Stanley, Chase, pas Chase, n'importe quoi, mais bon, enfin, toutes les banques qui sont. Oui, Goldman Sachs et tout. Et donc, ils sont là. Et en fait, les gens arrivent et ont leur CV, ils disent « voilà, moi j'adore votre banque, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment travailler pour vous ». Mais sauf qu'en fait, le problème, c'est que toutes les banques sont exactement les mêmes. Il n'y a aucune différence, mais zéro. Et mais enfin, si tu parles des mecs qui bossent dedans, ils vont te dire « si, là-bas, c'est un peu plus comme ci, comme ça ». Mais parce qu'en fait, il faut trouver des petites différences pour faire croire qu'il y en a, pour donner un sens à cette espèce de cirque qui est le recrutement dans les banques, tu vois. Et donc, tu as 1500 HEC en costard avec des CV plein les mains qui se partagent 20 stands de banque qui font la queue pendant une heure. Donc les mecs qui sont au stand de la banque, ils voient passer genre 150 mecs devant eux qui sont là, qui n'auraient jamais rien fait de leur vie parce qu'ils ont fait que des études, ce qui est normal. Et qui leur disent « je suis passionné de finance, j'adore, c'est n'importe quoi ». Tu vois, tout le monde raconte le même baratin. Et c'est hyper, hyper stressant. C'est hyper stressant. Tu sens la compète, tu te dis « putain ». Moi, je me disais vraiment, quand je suis arrivé à HEC, je me suis dit « ouais, c'est bon ». Quoi. Vraiment, quand j'ai eu HEC, je suis là « ouais, c'est bon, maintenant, là, ça va être le yacht, la thune, les meufs et tout ». J'arrive à HEC, je vois qu'on est 1500 guignols habillés pareil devant des stands et je me dis « en fait, on est foutus, quoi ». Si même ici, c'est autant la compète, on est mort. Enfin, moi, je vais aller bosser faire dans un stand de frites, tu vois, j'aurai plus de chance. Et tous mes potes étaient pareils. Genre, mon meilleur pote qui était avec moi là-bas était trop stressé. T'oses même pas parler au mec, tellement ça a l'air absurde ce truc, tu vois. Et j'étais même parti dans un voyage finance avec HEC, on était allé à Londres et tout, on avait visité des banques, ah, t'avais tous les. Enfin, c'était vraiment une ambiance chelou, quoi. Et après, en fait, en fait, il y a eu un miracle, je devais trouver un stage de césure. Et à la base. J'étais parti pour faire de l'audit parce qu'en fait j'avais rien foutu pour trouver mon stage. Je m'étais dit bon allez je vais faire Ernst & Young, c'est un gros cabinet d'audit qui est assez accessible pour les gens qui ont fait HEC. Et j'avais réussi les entretiens et du coup bah je me suis dit bah voilà je fais chez EY en septembre. Et mes potes se foutaient grave de ma gueule, enfin surtout Benjamin avec qui j'ai monté Livebotter ensuite, me disait qu'est-ce que tu vas aller faire chez EY? Et j'étais là écoute je vais choper de la rigueur, tu vois, une méthode de travail, enfin les trucs que tu te dis quoi de base, parce que en fait c'est un peu le seul truc que tu te dis, c'est je vais aller choper de la rigueur, une méthode de travail, c'est ce qu'on te vend aussi. Et là, miracle, miracle, je reçois un mail de je sais plus, peut-être Romain Lapeyre, enfin, ou peut-être le mec, c'était la boîte qui s'appelait Scalaire à San Francisco, une start-up, qui dit on cherche un stagiaire pour faire un peu tout, c'est payé $2000 par mois, on vous offre un MacBook et vous habitez à SF, quoi.
C'était un mail envoyé à plusieurs personnes.
Ouais, c'était un mail envoyé à toute l'école.
Ok.
Et là, je me dis feu, tu vois. Genre, c'est vraiment, on était genre 3 semaines avant mon stage chez EY et je dis feu. Et genre, fallait d'abord répondre à des questions, alors j'y réponds et tout. Et un moment, je chope un entretien avec le boss. Et c'était hyper tech. Moi, encore une fois, la tech, mais j'y connaissais rien du tout. Mais zéro. Je savais même pas ce que c'était qu'Internet. Je savais pas comment ça marchait. Moi, j'ai eu mon premier ordi à, je sais pas, à 15 ans. Et j'étais content parce qu'en fait, il y avait Internet. Donc, j'avais MSN. Et surtout, il y avait les couvertures des albums de musique qui s'updataient automatiquement dans Windows Media Player. C'était, pour moi, c'était ça, Internet. Je suis là, wouh! Enfin, sur Windows Media Player, j'ai mes covers d'albums, quoi. Et le mec me dit, ouais, alors, Scalaire, c'est une plateforme de management du cloud. Tu peux provisionner ton infrastructure pour les boîtes qui ont des problèmes de compliance et tout. Je suis là, ok, d'accord. Donc, là, vraiment, je comprenais rien. Donc, je commence à me buter sur le cloud, Internet, les serveurs, sur Wikipédia. Et en fait, je contente dans la tech par n'importe quelle porte. Tu te rends compte qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. C'est de la science, quoi. Et en fait, à chaque fois que tu lis un article Wikipédia, t'en as un autre. Enfin, t'as genre 80% des mots, tu les comprends pas. Il y a des liens dessus et ça t'emmène vers un autre article avec 80% des mots que tu comprends pas, tu vois. Et du coup, je me dis, bon, je sais pas si on va y arriver comme ça. Donc j'apprends tout le site par cœur, toute la documentation par cœur, je comprenais rien. Je mets des post-it partout à côté de l'écran et je fais mon entretien avec le mec et je gère de ouf, tu vois. Dès qu'il me posait une question, j'avais la réponse collée sur un autocollant à côté de l'ordi. Je faisais genre, alors let me think. Et puis je lisais le post-it et je répondais et le mec était là, ouais, putain, balèze et tout. Et il me sélectionne. Voilà le plus gros. Je sais pas si je lui ai déjà dit d'ailleurs que j'avais autant que son
préparé.
Et que son j'avais beaucoup préparé, mais surtout j'avais bien eu de la chance parce qu'il m'avait posé les questions finalement que j'attendais. Et peut-être que son process d'entretien n'était pas ultra sophistiqué, tu vois. Après peut-être qu'il cherchait juste un mec et qu'il s'entendait bien aussi, je sais pas. Et ça a changé ma vie pour le coup.
Donc là t'es parti à San Francisco.
Oui, je sens que tu as envie de te déplacer.
Ouais.
Marchons dans mon appartement. Oui, absolument, baladons-nous. C'est le truc à la Michel Denisot.
Exactement, ouais.
Alors, voilà. Mais asseyons-nous, non ?
Allez,
Tu veux rester debout ?
Vas-y, on s'assoit.
Non, il faut qu'on se mette face à face parce que sinon, après, on parle plus dans le micro. Bon, on en était où ?
San Francisco.
Donc, on y va sur le parcours comme ça ?
Ouais, je pense qu'on déroule là.
Hein. Ok, on déroule. Allez. San Francisco, ça a changé ma vie pour le coup. Vraiment.
Quelle année ?
2013. Non, 2013, c'était HEC. Ah, 2014, donc il y a 3 ans, en fait. Je débarque.
T'es parti pour combien de temps ?
6 mois, j'avais un stage de 6 mois. En plus, là, pour le coup, j'étais vraiment fier de moi, parce qu'ils nous avaient pris moi et une autre fille, et il y avait eu quand même beaucoup de candidatures. Et je m'étais dit, en fait, j'ai vraiment un gros syndrome de l'imposteur. Et quand j'ai eu Sciences Po, pas Grenoble, je me suis dit, c'est sûr que j'ai eu des pas assez bonnes notes, mais qu'ils ont mis plus de candidats cette année, et que du coup, j'ai été pris, tu vois. En plus, il y avait grave de rumeurs comme quoi ils avaient fait entrer plus de monde parce qu'ils avaient besoin de sous pour l'administration. Et moi, je me suis dit, c'est sûr, j'étais dans le bas du panier, je suis rentré, mais j'aurais pas dû être là et tout. Et à HEC, j'avais eu quand même pas mal de chance. Franchement, à HEC, à l'examen oral, il y a un truc qui s'appelle le triptyque. Le triptyque, c'est un exercice où tu as un convaincant, un défendant et un observateur et vous échangez les rôles. Le convaincant a une thèse à présenter, le répondant, enfin le défendant ou je sais pas quoi, doit répondre et argumenter, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils passent des exemples de ça sur un écran géant. Mais quand t'es en prépa, tous les exemples que tu vois, tu peux pas tomber dessus. Apparemment, quand t'étais en admission directe, ils avaient pas trop pensé à ça. Parce que moi, je me cale avec Ben, donc mon pote dans une salle. Et il y a un sujet qui passe. Je sais plus, un truc sur l'esclavage ou je sais pas quoi. Et je me dis, ah ouais, bon, moi j'aurais dit ça à la place de la fille, elle aurait peut-être pu dire ça et tout. N'arrive au triptyque, je pioche le sujet le même sujet quoi. Vraiment, tu sais, là tu te dis les planètes se sont alignées, genre c'est le coup de chatte du siècle. Et et je sors de là et je dis à Ben, il me dit alors c'est quoi le sujet. Je dis attends tu vas voir, ça va te faire marrer. Il me dit non mais j'ai pas envie de me marrer là, dis-moi le sujet. Et en fait je le dis et il était trop et on a eu des bêtes de notes évidemment, l'inverse aurait été un gros souci. Et donc j'avais toujours ce côté un peu imposteur quoi. Et en fait à San Francisco vraiment j'avais le sentiment de, mais en fait même pas, parce que comme j'avais un peu triché parce que j'avais mes post-it partout, je pense que j'ai toujours dans la vie l'impression de pas être à ma place, tu vois. Que je cherche ça aussi, hein. Je cherche à me mettre dans des situations où je suis en difficulté, je pense, parce que je sais pas, j'ai envie de me pousser. En même temps, j'ai toujours l'impression que c'est pas assez bien, tu vois. Mais bref, à San Francisco.
Ah, attends, juste, tu penses qu'il y a des gens qui se sentent à leur place, ou est-ce que parfois toi tu te sens vraiment?
Ouais, je pense qu'il y a des gens qui se sentent à leur place, vraiment, ouais. Vraiment, vraiment. En plus, moi, j'ai grandi avec plein de gens qui se sentent à leur place. Encore une fois, je pense que c'est lié à plein de choses. J'ai le sentiment que plus les gens sont heureux, plus ils se sentent à leur place. Mais c'est pas dans l'autre sens, en fait. Tu aurais tendance à penser que plus les gens sont à leur place, plus ils sont heureux. Mais moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Je pense que le bonheur dépend pas du tout de ce que tu fais dans la vie. Mais pas du tout, quoi. Alors, vraiment, c'est pas une question de succès, de... Et en fait, les gens heureux ont tendance à se sentir à leur place. Mais c'est... Et en fait, là, c'est un problème de l'œuf et la poule, mais c'est... Tous les gens les plus heureux que j'ai rencontrés, c'était les gens qui étaient des gens satisfaits, en fait, de ce qu'ils ont.
Quel que soit.
Ouais, qui étaient satisfaits. Et c'est assez cool, la vie est cool, tu vois. Mmh. Moi, j'ai un pote à Grenoble, c'est un de mes plus vieux potes. Il se lève à 14h, à 16h, il va livrer des postes parce qu'il bosse pour la... Enfin, il va livrer des courriers parce qu'il bosse pour la poste. À 18h, il rentre chez lui, il joue à la Play. Voilà, quoi, ce mec, il a l'air d'être trop content. Et je l'ai jamais tellement entendu de se plaindre de sa vie, tu vois, de se poser des questions existentielles et tout. Et ouais, je pense qu'il est bien.
Et toi, t'es pas trop comme lui?
Ah non, non. Moi, je suis toujours en train de me lasser. Dans un sens, je suis un éternel insatisfait, mais genre vraiment, j'entre à... Je pense que je mystifie beaucoup et ensuite je démystifie beaucoup, tu vois. Quand j'entre à Sciences Po Grenoble, je me dis c'est ouf, génial. Déjà, je suis un génie. Et surtout, je suis avec des génies et c'est le meilleur endroit du monde et c'est trop bien, quoi. Et en fait, au bout de 3-4 mois, je me dis, ouais, mais c'est de la pure merde, tout le monde est débile, les cours sont nuls, il faut absolument que je parte. Et ça me fait un peu ça partout.
Mais à force d'avoir vécu ça plusieurs fois, tu. T'as pas l'impression de connaître ce mécanisme et du coup, quand ça t'arrive.
Si, ben justement. En fait, je pense que c'est un. Faut. Ça va paraître être cliché, mais. Tous ces trucs-là arrivent quand tu attends quelque chose d'un truc externe, tu vois. J'attends de Sciences Po Grenoble que ça m'aide à être plus ceci ou plus cela, alors qu'en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, si tu veux. Et là, je suis en train de le comprendre vraiment en ce moment dans ma vie, où je me ressens beaucoup plus sur moi et sur une satisfaction qui doit être permanente, en fait, qui dépend pas. Par exemple, tu vois, sur Nouvelle École, j'invite des gens. Enfin, je pourrais inviter Booba demain et ensuite... je sais pas s'il y a n'importe qui, quoi. Je pourrais inviter Jésus sur Nouvelle École, que je serais toujours insatisfait si j'attends de ça que ça m'apporte la satisfaction, tu vois. Et donc je pense que ce qui est important, c'est d'être dans une satisfaction permanente un peu, et d'accepter les hauts et les bas et de pas les combattre, en fait, tu vois. J'en parlais il y a pas longtemps, mais tu recherches les hauts, mais en recherchant les hauts, tu plantes un peu les graines de ta déprime dans le bas, tu vois. Et je pense qu'il faut accepter qu'il y a les hauts, qu'il y a les bas, et trouver une sorte de satisfaction intérieure. Voilà, vous êtes sur le podcast bouddhiste.
Comment tu fais ça pour trouver cette satisfaction intérieure?
Moi, je suis nul, mais je progresse en... J'ai beaucoup progressé, je pense, ces derniers ans, en me recentrant sur ce qui est important pour moi au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup couru après des chimères. J'ai vraiment beaucoup eu l'impression d'être un hamster dans une roue, tu sais. J'ai même beaucoup écrit des trucs là-dessus que j'ai jamais sorti d'ailleurs, mais où je me disais vraiment, je suis un hamster dans une roue, je peux jamais respirer parce que je suis jamais content. J'ai toujours l'impression que ce que je fais, c'est nul, que je suis bloqué, que je suis coincé, que j'avance pas. Et en fait, j'ai poursuivi des mauvaises choses, en fait. Tu sais, le syndrome de la rockstar où tu veux être une rockstar et tu veux pas vraiment jouer de la musique tous les jours. Et de poursuivre le process et pas le résultat. Et en fait, maintenant, ce que je me dis, c'est qu'est-ce que... Et ça l'a vachement fait quand j'ai quitté ma boîte. Dans ma boîte, j'étais pas heureux parce qu'en fait, c'était pas ça que je voulais faire tous les jours. Moi, tous les jours, je voulais pas être un boss de boîte. Je voulais pas être un manager. Je voulais pas gérer des projets. Je voulais pas gérer des clients. Moi, et à ce moment-là, je me suis dit qu'est-ce que j'aime faire tous les jours. Et Nouvelle École, j'aimais bien le faire, tu vois. Quand je faisais Nouvelle École, j'étais content. C'est pas tout le temps marrant, il y a plein de trucs chiants sur Nouvelle École, mais en vrai, non. Franchement, c'est quand même du luxe, quoi. Donc, quand tu te dis, oh là là, c'est chiant, je suis en train de monter mon épisode avec Gringe et tout, genre, ça va, tu vois. Et c'est ces trucs-là, écrire, tu vois, écrire, j'aime bien écrire, vraiment. Et du coup, Y a, évidemment, écrire, il y a plein de mots qui sont durs quand t'écris et qui sont pas marrants. C'est pas un truc, c'est pas de la dopamine d'écrire. Mais c'est un truc qui apporte de la satisfaction. Tu vois. Et je pense que c'est ça que, c'est comme ça, moi, que je combats, j'essaye de m'éloigner des chimères et des buts dans la vie, tu sais. Les buts. Le fameux, il faut que je devienne ci ou que je devienne ça ou que j'ai une promotion ou que machin, qui en fait, à mon avis, sont vraiment, un peu une cause du problème. Et de plus, me rapprocher de, déjà, de plus te rapprocher de ta vie au quotidien, parce que c'est vraiment ça qui est important. Tu vois, tout le côté, je me fais chier pendant 3 ans, comme ça, dans 3 ans, j'aurai ça, c'est débile. Dans 3 ans, mec, ça se trouve, t'auras changé. Ça se trouve, tu seras mort. Et surtout, ça se trouve, tu seras mort, quoi. Et du coup, ça veut pas dire YOLO, mais ça veut dire, faut se rapprocher de son quotidien. Moi, vraiment, si j'étais mort il y a peut-être 6-7 mois, bon, j'aurais pas pu dire grand-chose vu que j'étais mort, mais je me serais vraiment dit, putain, mais me fais chier, pourquoi je suis là à mourir maintenant, tu vois ? Pourquoi je meurs et ça fait des semaines que je suis pas content de ce que je fais et que je suis pas heureux ? Alors que là, tu vois, s'il m'arrive un truc, je me dirais, bon, bah vas-y, franchement, les dernières semaines étaient trop cool, les derniers mois étaient trop cool. Et malgré les hauts et les bas. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça, faut essayer de se rapprocher des choses que t'aimes faire au quotidien, et puis... Honnêtement, je pense pas qu'il y ait de raccourcis non plus pour t'apprendre à se connaître, tu sais. Moi, je pense que sans toutes ces années à courir dans tous les sens, à poursuivre les mauvaises choses, à me faire mal psychologiquement quand même, j'en serais peut-être pas arrivé aussi. Et je pense que je ne suis qu'au début de ma quête vers plus de tranquillité. Hein. Moi, je suis encore, je suis pas soigné ni guéri, tu vois. Je suis encore beaucoup dans ma tête. Je pense encore beaucoup à qu'est-ce que je vais accomplir, etc. J'essaie juste de moins y penser et de plus être dans le moment, tu vois. Voilà, je crois.
Ouais. Pour finir sur ta biographie.
Ah oui.
Quand t'arrives à San Francisco, ton but justement, ou quelle chimère tu recherches ?
Bah alors rien. Franchement, San Francisco, c'est plutôt le côté. Là, on est dans le fun à San Francisco. C'est genre, on est dans le truc. Bah, l'entrepreneuriat, mais qui à l'époque me paraît fun, comme il y a rien de plus fun pour moi. Et puis je dois t'avouer qu'en fait, moi je pense que vraiment depuis tout petit, j'ai plus été une tendance artistique, business, tu vois. J'ai jamais monté un centre de limonade par exemple, jamais, quoi. J'ai jamais vendu, j'ai jamais créé un magazine que j'ai vendu ensuite, jamais fait ça. En revanche, j'écrivais des petites histoires, j'écrivais des chansons, pour moi, les startups, c'était l'excroissance artistique du business, tu vois. Genre, on m'a dit, j'avais vu la finance, j'avais vu l'audit, de pas vraiment de l'intérieur, mais je l'avais vu, quoi. J'avais vu du conseil un peu aussi et tout. Et puis j'avais vu la compta, le Valois, enfin bref. Et après, on m'a montré les startups. On m'a dit, regarde, là, les mecs sont trop cool, ils ont un babyfoot, ils changent le monde, ils font des trucs, c'est leur passion et tout. Je me dis, trop bien. En fait, moi, c'est comme quand j'étais ado et que je faisais de la musique, ils font pareil, juste ils font du business avec. Et en arrivant à San Francisco, j'étais vraiment là-dedans. Et c'était vrai dans un sens. Quand je suis arrivé à San Francisco, j'ai halluciné. Je me suis retrouvé dans une bête de situation. Mon boss était trop cool. Il avait 30 ans. Il m'a fait confiance hyper vite. Il m'a donné le premier jour. Il m'a dit, ouais, Antonin, en anglais. Alors, moi, en plus, ça va, je connaissais l'anglais, mais j'étais pas non plus ultra bilingue. Il me dit, ouais, Antonin, va nous négocier nous chercher une ligne de crédit à la banque, tu vois, chez Chase. Je fais quoi? Je descends et, j'arrive à la banque, je me retrouve en face d'un mec, en plus c'était un indien, enfin d'origine indienne, donc il avait un accent pas possible. Je comprenais rien à ce qu'il me disait, mais rien du tout. Je m'y connaissais pas en comptabilité américaine. Enfin, et du coup, j'ai tout enregistré sur mon iPhone et je faisais genre je comprenais ce qu'il disait, et après j'étais revenu dans les bureaux, et j'avais tout écouté parce qu'en fait son boss m'a fait, tu me fais un executive summary ensuite et tout. J'étais là, ouais, pas de problème. J'étais allé sur Google, j'avais fait, alors qu'est-ce que c'est qu'un executive summary, tu vois. Vraiment, je connaissais rien du tout. Et du coup, donc il y avait cette ambiance où, et j'étais là, putain, c'est ouf, le mec me laisse faire des trucs, il me demande, il me fait confiance. On arrête enfin avec ce paternalisme débile là, ce truc français de, moi dans ma famille, il y avait plein de gens qui disaient, non mais d'abord, il faut te faire bien chier pendant genre 20 ans et ensuite tu montes un peu et tu gagnes le respect et tout, et t'es là, fuck, quoi. Genre moi j'ai grandi avec YouTube. Sur YouTube, les gens font des trucs, ils ont 20 ans, tu vois. Et peut-être que c'est pas sain de voir que ces stars et ces mecs qui kiffent trop leur vie. Donc ils se suicident tous ensuite, mais ça on en parlera après. Mais peut-être que c'est pas sain, mais moi j'ai grandi en voyant ça. Alors moi j'ai grandi en regardant des vidéos de Blink-182 qui chopent $50,000 pour faire un clip et qu'ils vont le retirer en cash. Et au lieu de faire un clip avec, ils distribuent la thune dans la rue et c'est ça leur clip, tu vois. Et c'était trop cool. Et, Et du coup, pour la première fois, j'avais le sentiment d'arriver dans un endroit où on te disait pas, parce que t'étais jeune, on te disait pas, t'es un golemont, va faire des trucs de merde pendant 10 ans, et ensuite peut-être que tu pourras faire des trucs un peu moins nuls. Et on disait, non, vas-y, t'es comme nous. T'es comme nous, fais des trucs utiles. Et en plus, du coup, c'est un peu de la psychologie inversée, mais du coup, t'as tellement envie de faire n'importe quel truc, même bidon, qui pourrait te permettre de les aider parce qu'ils te font confiance. Moi, qu'est-ce que j'ai fait dans la startup où je suis arrivé? Le premier truc que j'ai fait, c'est la compta. Donc c'est marrant, pour le coup. C'est que j'ai fait, qu'est-ce que je peux faire? Ils sont trop cool, faut que je les aide. Personne s'occupe de la compta, il n'y a pas assez de monde. Il y a un logiciel de compta, je vais tout apprendre, je vais tout remettre à plat, je vais tout cleaner, je vais leur filer des projections financières et tout et tout. Et voilà, vraiment, ça a été... et je pense que ça a vraiment complètement changé ma vie, l'espèce de confiance que ce mec m'a accordé, de m'emmener avec lui quand il a commencé à vouloir lever des fonds. Alors, il allait à Palo Alto, il m'a fait rencontrer des types. Tu vois, moi, j'étais à Palo Alto, c'était la ville de... Je suis allé dans le café où Zuckerberg avait rencontré... En plus, moi, je commençais vachement à m'inspirer tout ce storytelling, Facebook et tout. Je trouvais ça génial. C'était le même storytelling qu'avec les acteurs, les musiciens et tout. Soline est en train de mourir. C'est marrant parce que c'est moi qui parle et c'est toi qui tousse.
Je suis malade.
Qu'est-ce que je parle d'ailleurs?
Excuse-moi.
Vous l'avez demandé, l'épisode, vous l'avez. Hein. C'est... qu'est-ce que je disais sur... Ouais, donc...
La confiance que...
Ouais, la confiance, le côté... pas de limite en fait, tu vois. Pas de barrière. Hein. Moi, je savais pas coder, je savais rien faire. Je connaissais rien, quoi. Je comprenais rien à ce qu'il faisait. Et il a fallu que je bosse comme un ouf pour comprendre 10% de ce qui se passait. Et je disais, j'aimerais bien apprendre à coder. Ça a l'air cool et tout. Les hackers, je commençais à m'inspirer de Facebook, de tous ces trucs-là. Puis t'es à San Francisco, quoi. Si tu codes pas, personne te parle. Et je m'étais dit, bah vas-y, je vais apprendre à coder. Je demande à mon boss, il me dit, bah ouais, vas-y, fais une app. Tu sais, comment ça, fais une app, je suis pas ingénieur et tout. Et il me dit, mais tu t'en fous. On s'en fout, quoi. Tiens, va sur Internet, il y a tout, t'apprends et tu le fais. Et je n'avais pas du tout réussi d'ailleurs. J'avais passé des heures et des heures à la fin de mes journées à coder, mais j'étais nul. Enfin, ça ne me servait à rien. Mais il y avait quand même ce côté hors des cases. Je pense que c'est vraiment une thématique hein, dans ma vie maintenant. Mais, genre, fuck, quoi. Tu peux apprendre à coder si tu veux apprendre à coder. Il ne s'était même pas posé la question, en fait, lui. Moi, je m'étais posé la question de ouf. J'étais trop nul. Je comprenais rien. J'allais sur les sites pour apprendre à coder. Chaque mot, pour moi, c'était une montagne. Et pour lui, c'était même pas. Il ne se posait même pas la question. La preuve, c'est qu'il m'a dit de faire des trucs beaucoup trop compliqués au départ. J'aurais jamais pu les faire, ces trucs-là. Mais c'est la différence de mentalité, quoi, qu'il y avait dans la Silicon Valley.
Une mentalité. Lui, il était américain.
Il était américain et français, mais oui, il vivait depuis longtemps dans la Silicon Valley. Mentalité avait rien à voir. Les jeunes, ils avaient de la valeur, parce que c'était souvent eux qui sortaient les plus gros trucs de ouf, tu vois, enfin, les startups, quoi. Les vieux étaient un peu plus nazes, pour le coup. C'était marrant, cette inversion, quoi. En France, où les vieux, c'est genre, faut respecter t'as des mecs qui sont dans des boîtes depuis 50 ans, ils foutent rien. Dans des écoles, l'administration, c'était toujours des mecs qui étaient là depuis 30 ans, les mecs. Tout le monde disait que c'était des branleurs, mais tu pouvais pas les virer et tout. Bref. Là-bas, c'était genre, il y avait aucune, en fait, il y avait, comment dire, il y avait pas de respect, a priori, quoi. C'était qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vaux? Est-ce que t'es bon? Est-ce que tu taffes? Est-ce que t'es sérieux? Et si oui, mec, on est trop content d'être avec toi. Mais si tu crois que parce que t'as fait HEC ou que t'as 30 ans de plus que les autres, on va te dire que c'est génial, mais tu vas retourner ailleurs, quoi. Et ça, ça m'a vachement marqué. Il y avait un autre truc qui m'a vachement marqué là-bas, c'est le côté, ils disent pay it forward. Tu vois? Pay it forward, t'étais censé rendre des services aux gens. Et quand quelqu'un te rend un service, au lieu de lui rendre l'appareil, tu vas le rendre à quelqu'un d'autre, tu vois. Tu vas la rendre à quelqu'un d'autre. Tu vas transférer cette espèce de bienveillance qui a ses limites, hein, c'est les Américains et tout. Mais... Et encore une fois, moi j'étais en mode bullshit, 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 et je l'ai vraiment vu. C'est-à-dire que mon boss rendait des services à des types tout le temps. Il acceptait tout le temps des trucs à la con, genre faire prendre un café. Et des mecs qui connaissaient pas trop lui rendaient des services de ouf aussi. Il y avait une méga entraide entre les entrepreneurs. Moi, il m'a fait rencontrer un mec qui était une superstar de chez Google. Qui avait, ou de chez Facebook, je sais plus, mais qui avait genre construit les trucs genre internet.org et tout.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et le mec a accepté de me voir. Il m'a vu une demi-heure dans un Starbucks à Palo Alto, tout seul. Et je lui dis, ouais, alors j'aimerais bien être entrepreneur, mais je sais pas trop comment faire. Enfin, j'étais un rookie de ouf, genre, je savais rien faire. Et le mec a passé une demi-heure à me parler. D'ailleurs, il m'a dit un truc qui est resté d'ailleurs très longtemps, c'est qu'il m'a dit « never get stuck ». Il m'a dit « reste jamais bloqué ». Quoi. Et en fait, tu crois toujours que tu dois attendre un truc pour pouvoir commencer, tu sais. Genre, j'aimerais bien monter une boîte, mais il faut d'abord que j'apprenne à coder. Non. Si t'as envie d'apprendre à coder, apprends à coder. Si t'as envie de monter une boîte, prends un tableau Excel, prends ton téléphone et passe des coups de fil et dis « je fais ça ». Quoi. Et t'as pas besoin d'apprendre à coder, tu vois.
Ouais, et puis c'est le meilleur moyen de savoir si justement ton quotidien te plaira, quoi.
Mais absolument. Et en fait, à chaque fois que tu te dis j'aimerais bien faire ça, mais d'abord faut que je fasse ça, c'est juste que t'as peur de faire le truc que tu veux faire, tu vois. Et faut arrêter. Enfin, faut arrêter. Je sais pas. Tout le monde fantasme un peu, tu vois. Tu fantasmes sur la vie que tu penses que tu voudrais avoir, et en fait, soit tu acceptes de l'expérimenter vraiment, et soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas, et tu sais, soit tu restes toute ta vie dans le fantasme. Et moi, je veux plus être dans le fantasme, tu vois. Je l'ai beaucoup été. Et donc. Quand je suis rentré, je croyais vraiment qu'il fallait quand même que j'aie une expérience de boulot sérieuse. Parce que je pensais que c'était pas sérieux, encore une fois, je me disais c'est pas possible que des gens bossent comme ça et que ce soit aussi cool. Et bien sûr que si c'était possible, ils faisaient plein de thunes et tout. Mais... Et je me dis, allez, il faut que j'aie un conseil, en plus, il faudrait que j'aie un réseau à Paris et tout. Donc je passe les entretiens en conseil.
Attends, t'avais pas envie de rester plus longtemps aux États-Unis ?
Pas tellement, parce qu'en fait, j'avais besoin de rentrer. En fait, je voulais être. Vivre un peu à Paris. J'avais envie d'être à Paris. J'avais jamais été à Paris. J'étais à HEC, j'étais pas sur Paris. Et je me disais, j'aimerais bien. À Paris, j'ai pas de potes. Moi, je connaissais quelques personnes à HEC, mais j'avais pas fait la prépa, donc je m'étais fait quelques bons potes. Mais j'avais pas une méga bande. Et tous mes potes de là-bas avaient des méga bandes de potes. Et quand t'es tout seul dans une grande ville, vaut mieux être tout seul dans un village, hein. Tu te sens moins mal. Et du coup, je m'étais dit, je vais rentrer à Paris. Je vais me faire un réseau, c'est-à-dire, je vais me faire des potes, en fait. Et du coup, je m'étais dit, je vais aller bosser en conseil. Et je commence à préparer les entretiens en conseil. Et je suis là, mais c'est quoi cet enfer, quoi. Que des brain teasers, genre combien de balles de ping-pong on met dans un avion, alors je me tape le bouquin et tout. Puis moi je suis nul à ça, vraiment c'est pas mon truc. Tu sais, d'une ça m'emmerde, et puis deux c'est vraiment, je suis pas très bon quoi à ça, tu vois. Et je me dis ouais, un peu freestyle, un peu comme quand j'avais passé Sciences Po Grenoble, je me dis ouais ça va le faire, tu vois. Et j'arrive et je rate comme une merde. Genre vraiment chez McKinsey, ils te font faire un test un peu de logique, tu sais t'as genre une heure et t'as plein de questions en QCM, mais si tu mets des mauvaises réponses tu perds des points, enfin un classique. Et je torche le truc en une demi-heure. Il me dit, mais c'était trop facile, quoi. Genre, vous êtes sérieux? C'était trop facile. Et à un moment, donc après, je passe mon entretien, ça passe pas de ouf et tout, mais. Et ils m'appellent et ils me font, ouais, vous avez raté. Je fais, ok. Ils me font, bon, en plus, vous avez quand même vachement raté le test de logique, quoi. Vous avez eu genre 5% de réponse juste. Je sais pas quoi, tu vois. Je me dis, bon, ok. Et là, je me dis, bon, bah, c'est bien, au moins, j'ai une excuse pour pas aller faire du conseil. La société, je vais devenir entrepreneur, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé en fait à monter mes trucs et tout. Et là du coup je savais pas coder, mais j'ai fait un truc de recrutement où je me suis dit, en fait, j'ai remarqué à quel point à SF c'était dur pour mon boss de recruter des gens. Je me suis dit, je vais prendre des mecs en France et je vais les envoyer aux États-Unis, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai recruté genre 3-4 personnes pour lui. Ouais. J'avais un seul client, c'était lui. Mais et sur le moment, je me disais c'est naze, mais en fait, avec le recul, c'était pas naze, c'était un truc d'entrepreneuriat quand même, tu vois. Mais j'étais tellement nul en code que j'avais un site dégueulasse, enfin bref. Et du coup, après, je suis allé faire le wagon pour apprendre à coder.
Le wagon, c'est quoi?
Le wagon, c'est une école de code. C'est un bootcamp, ça dure 9 semaines. Et ça, pour le coup, ça m'a vachement aidé à apprendre à coder, en fait. Parce que ça mettait tout un environnement autour de toi pour apprendre. Donc, c'est bien de savoir que tu peux apprendre ce que tu veux. Mais après le wagon, je savais encore plus que je pouvais apprendre ce que je veux et qu'il suffisait. Sinon, t'as toujours. Tu vois, imagine, tu te mettais demain à te dire, ouais, j'ai envie de faire du violon. Et que t'es tout seul. Le premier jour, tu vas être trop chaude. Tu vas faire plein de violons, tu vas faire des vidéos sur YouTube, tu vas lire des partitions et tout. Le deuxième jour, tu vas te dire, ouais, cool et tout. Mais il y a un moment où tu commences à entrer dans le vrai dur, tu vois. Mm. Le vrai apprentissage, c'est-à-dire c'est ingrat. T'es une nulle à chier. Tu sais pas faire un seul truc qui tient la route. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Je suis pas un joueur de violon, moi. Tu vois? Je vais pas apprendre à jouer du violon. Il y a des gens qui font du violon depuis qu'ils ont 6 ans. Pourquoi j'irais moi faire du violon? De quel droit est-ce que je ferais du violon? Moi, je fais une école de commerce, faut que j'aille bosser. Et c'est ça, et ça, invariablement, ça vient dans ta tête, tu vois. C'est pour ça que le wagon, c'est ultra, ultra fort. Parce que ça te met avec des gens et en disant, mec, que tu le veuilles ou non, t'es là pour 9 semaines, tu codes. Donc, tu passes la barre, en fait, tu passes le mur, tu vois. À la fin du wagon, t'es pas un bon développeur, juste, tu t'as passé le mur, tu te dis, ok. Et en plus, surtout qu'après, tu te dis, bon, bah, si je peux apprendre à coder, en fait, je peux apprendre à tout faire. Et ça, c'est ultra libérateur. Voilà. Et pour finir la biographie, on arrive sur la. J'ai fini HEC, on a parlé tout à l'heure de ça vaguement. Et en fait, moi, j'étais vraiment dans une période où là, je me cherchais de ouf. C'est-à-dire, je pensais vraiment qu'il fallait que je sois entrepreneur parce que je me voyais vraiment pas bosser dans le privé, je me voyais pas bosser en conseil. Moi, je voulais reproduire ce que j'avais vu à San Francisco. Je voulais la même chose. Je voulais faire un truc qui me passionnait avec que des gens cool, une sorte d'aventure collective. Que j'avais pu vivre aussi dans mon groupe de musique, tu sais, où tu passes des moments forts avec des gens, tu sais. Par exemple, si t'as un truc à rendre et que tu le rends avant minuit et que tu passes, tu taffes comme un ouf avec tes potes et à la fin, tu sais, c'est que des high five. Puis moi, j'étais très inspiré. Tu sais, il y a beaucoup de ce que t'as vu à la télé et sur YouTube aussi qui rentre là-dedans. Beaucoup de fantasmes, quoi. Et donc j'ai monté plein de petits trucs différents qui marchaient ou marchaient pas et à un moment, je suis tombé. J'ai aidé des gens à écrire. Ça je l'ai fait, je l'ai commencé il y a un an et demi, un truc comme ça. J'ai le truc où j'ai recruté des types, j'ai fait un peu un truc de réalité virtuelle avec un pote qu'on n'a pas continué finalement. J'ai vraiment couru dans tous les sens, tu vois. On se foutait pas mal de ma gueule d'ailleurs parce que j'étais toutes les deux semaines avec un nouveau projet, puis j'avais vachement peur. J'avais vachement peur en fait. Dès que j'avais une idée, j'en parlais à tout le monde. Tu dis, ouais, je vais faire ça, et en fait, tu la fais jamais ton idée, parce que plus t'en parles aux gens, plus tu la dilues, et plus t'as l'impression de l'avoir. C'est comme si tu l'avais déjà faite, tu sais.
T'avais peur de quoi?
J'avais peur de le faire. J'avais peur de pas en être capable, j'avais peur de pas en avoir envie, peut-être, j'avais peur de ce que les gens allaient en penser, j'avais peur que ce soit ma vie, j'avais peur de m'engager surtout, je crois. Tu sais, de choisir. Moi, comme j'avais vachement peur de rester bloqué dans un truc, après, je pense que j'avais une sorte de peur de. Si je choisis ça, toute ma vie, c'est ça, tu sais. Et en fait, non, il y a plein de trucs que j'aime bien. Je sais pas encore ce que je veux faire. Peut-être que j'ai encore envie de faire de la musique, tu vois. Peut-être que je veux faire du ciné. Peut-être que. Et j'avais toujours. Peut-être que je vais monter une start-up, mais pas là-dedans. Et à un moment, j'étais avec une fille et elle en a eu un peu marre, je crois, de tout ça. Et elle m'a dit, mais vas-y, quoi, fais un truc, tu vois. Et ça m'a un peu botté le cul et j'ai commencé à vraiment aider les gens à écrire, tu vois. Mais je me mettais une pression de ouf parce que. En plus, elle était vachement brillante. Je savais qu'elle allait réussir, tu vois. Et moi, je pense que j'avais quand même envie de pas être un loser, dans un sens. Et en fait, c'est pour ça, je pense aussi que quand Ben, mon pote Benjamin, est arrivé avec l'idée pour LiveBotter de monter des chatbots, etc., j'ai sauté dessus direct sans réfléchir parce que ça me paraissait tellement une idée business beaucoup plus viable, beaucoup plus safe, dans un sens, tu vois. Il y avait moins de risques parce que c'était avec un pote. Que c'était plus ou moins ce que j'avais toujours voulu, c'était dans la tech. Donc je me disais, c'est un peu tech et tout, c'est cool. Et évidemment qu'il y avait un potentiel business de ouf. À dire, on était les premiers à faire des bots en France, tu vois, quasiment. Toutes les boîtes allaient en vouloir, c'était sûr. Alors que mon truc où j'aidais des gens à écrire, mais en même temps, j'étais hyper romantique en plus dans mon rapport au truc, j'avais pas envie d'être nègre, j'avais envie qu'ils apprennent, enfin c'était complètement... C'était pas si con que ça, mais la manière dont je l'abordais, c'était pas la bonne.
Attends, deux questions. La première, c'est quoi un bot, pour ceux qui ne sauraient pas? La deuxième, quand tu dis que t'aidais les gens à écrire, c'était dans quel contexte? Leur écrire quoi?
Alors un bot, c'est une application qui vit dans une application. Alors comment t'expliquer? Par exemple, une application de messagerie comme Facebook Messenger, tu vas créer un robot dedans. Et quand les gens lui parlent, c'est comme s'ils parlaient à une vraie personne, mais en fait ils parlent à un robot. Okay. Et ben en fait ils sont dans une application, donc ils vont pouvoir faire ce que tu veux, commander un ticket pour aller au cinéma, obtenir une recette ou avoir leur horoscope, tu vois.
Okay.
Et ensuite, c'était la question sur le fait que, comment ça se passait quand j'aidais les gens à écrire.
Ouais, c'était qui pourquoi?
Ben, j'avais commencé à écrire en fait parce que j'avais cette envie d'écrire et de partager que j'avais depuis que je faisais de la musique, mais que j'exploitais plus. Et à un moment, je me suis vachement remis à lire en rentrant de San Francisco. Et je me suis dit, j'ai envie d'exprimer un truc, tu vois. Et,
Et donc j'avais commencé à écrire, j'avais tellement peur de ce que les gens allaient dire et tout, puis évidemment personne n'avait rien dit, j'avais genre 50 vues sur mon premier article, et c'était mes potes qui avaient cliqué dessus par curiosité, tu vois, donc...
Mais en fait... C'était quoi, c'était en français, en anglais?
C'était en anglais. Je pense que l'anglais, c'était aussi une manière de me cacher un peu dans un sens, c'était plus facile. J'avais l'impression d'écrire mieux en anglais, mais je pense que c'est juste parce que je parlais moins bien anglais. Du coup, tu sais, il y a une sorte de... T'as pas le même standard, quoi.
Et ça portait sur quoi?
Ça porte sur moi, bien sûr, comme là, comme maintenant, comme tous les jours. Te dirais toutes mes ex. Non, ouais, ça portait sur les questions que je me posais. Mon premier article, c'était d'expliquer pourquoi ça sert à... En fait, j'avais une pote qui était devenue ma copine ensuite, qui cherchait un stage et qui avait envoyé un mail à un mec, et elle lui disait j'ai fait ci pour essayer de choper le job. Et moi je lui avais dit, mais ouais, le mec il s'en fout en fait, il veut que tu lui parles de sa boîte, de comment tu vas aider sa boîte, de pourquoi toi t'es pertinente, mais pour sa boîte, pas pourquoi toi t'es pertinente en général, tu vois. Et elle avait dit ah ouais grave et tout, et elle avait envoyé un autre mail, et le mec avait répondu direct en mode ah ok, maintenant on parle, tu vois. Donc là je m'étais senti genre le boss déjà. Je t'ai dit, ok, t'inquiète et tout. Et je m'étais dit, vas-y, je vais faire un article là-dessus. En fait, j'avais écrit plein de trucs avant, mais c'était trop, j'arrivais pas. Et là, j'avais un truc concret, une sorte d'ouverture. Et j'avais écrit un truc là-dessus. Et après, j'avais écrit des trucs sur parce que je comprenais de la vie et ce que les questions que je me posais, donc des trucs existentiels. Et à un moment, il y en a un qui a buzzé de ouf. C'est un article sur, justement, sur le fait de jamais rester bloqué, ce que le mec de Google m'avait dit. Et là, j'avais fait du storytelling avec une fille dont j'étais amoureux quand j'étais petit et tout. Et là, celui-là, il avait fait, je sais pas... Enfin, il avait des milliers de likes sur Medium, il avait été en page d'accueil, etc. Et j'en avais refait un ou deux ensuite qui avaient vraiment buzzé aussi. Et en fait, là, il y a des mecs qui avaient commencé à venir me voir en me disant « Tu pourrais m'aider avec mon article Medium et tout ?» Et je me suis dit « Ouais, bien sûr. » Et après, je me suis dit « Ah, mais en fait, je suis con, j'arrête pas de chercher des idées de business. C'est peut-être ça, l'idée de business, peut-être aider des gens à écrire. » Et en effet, sauf que je savais tellement pas me vendre que le premier client, je lui ai demandé de me payer 10 euros. Et j'ai bossé pour lui pendant 3 semaines, un truc comme ça. Mais j'étais trop content, quoi. J'avais vendu mon truc 10 euros. Genre, j'étais là, oui, yes, c'est tout. Tu vois. Alors, évidemment, avec le recul, ça paraît débile, mais j'aime bien cette histoire parce qu'en fait, je pense qu'elle est importante. Pour moi, c'était juste important de valider que quelqu'un allait mettre un tout petit peu d'argent pour le truc que j'avais à lui offrir. Et c'était hyper utile. Et heureusement que j'ai vendu ce truc 10 euros et que je l'ai pas fait gratos, tu vois. Donc voilà ce que c'était mon taf. Et ensuite, j'ai monté la boîte avec Ben, en fait. Et oui, ça a marché, en effet.
Ça, c'était l'an dernier?
Ouais, c'était juillet 2016. On a commencé. Juin 2016 ou juillet. Et on a galéré pendant 2-3 mois et tout, parce qu'on était vraiment, vraiment très très tôt sur le marché. Mais ensuite, on a chopé des gros clients. Société Générale, La Redoute, Météo France, tu vois.
Donc vous vendiez des bots à ces boîtes?
Ouais, la boîte existe encore, hein. Ça s'appelle LiveBotter, il la gère d'une main de maître, on est toujours potes, et en fait il vend des chatbots à des grosses marques, et en fait c'est un peu du branding aussi dans un sens, tu vois, c'est une nouvelle manière de communiquer sur la marque, c'est un nouveau canal de communication pour ces marques. Et moi, mon taf dans cette boîte, c'était de... Bah, on était deux, hein, donc on faisait un peu tout ensemble. Mais moi, j'étais quand même plus sur les ventes. J'étais plus sur la vente. Et j'aimais bien vendre. J'aimais bien closer un deal, quoi. Tu sais, signer un contrat. Parce qu'il y avait un boost à l'ego, je pense. Mais en fait, je pense que je trouvais pas de lien personnellement avec... Ben s'éclatait, tu vois. Franchement, c'était lui qui faisait les produits... il le faisait bien, il était fier de son taf, les produits étaient objectivement bien meilleurs que tous les autres trucs qui existaient sur le marché des bots. Et c'est pour ça que ça marchait bien, notre boîte aussi. Vraiment, il le faisait avec passion, quoi, tu vois. Il le fait toujours avec passion. Moi, je le faisais plus comme un truc un peu pragmatique, du mec qui s'est dit, je veux monter une boîte, et du coup, maintenant, je fais ça, mais si on vendait des œufs, je le ferais pareil, tu vois. Et ça suffisait pas, franchement. Et j'étais dans une relation à l'époque dans laquelle j'étais pas mal en insécurité et j'avais du mal à... j'étais pas très très bien, quoi. Et en fait, ces deux trucs se sont nourris l'un et l'autre, j'ai l'impression. Et en fait, je suis vraiment devenu, pour la première fois de ma vie, assez malheureux. Et pendant assez longtemps, en fait. et on en a parlé dans un podcast avec Marina Rollman, je pense avec le recul que c'était un épisode de dépression, et qui en plus était dur pour moi parce que je comprenais pas pourquoi j'étais pas content, parce qu'en fait j'avais tout ce que j'avais toujours voulu. J'étais entrepreneur, ça marchait de ouf. Enfin, alors ça marchait mille fois plus que tous les autres projets de tous les potes que je connaissais qui lançaient leurs trucs. Parce que nous, on faisait du vraiment, on avait des vrais clients qui payaient du vrai argent, qui en payaient beaucoup. Et c'était, ils étaient contents, on faisait du bon taf. J'étais avec la fille avec qui je voulais être depuis hyper longtemps, quoi. Et du coup, je me disais, pourquoi ça va pas, quoi? Il y avait une sorte de double culpabilisation, double peine de 1, je me sens pas bien, et 2, en plus, je me dis, t'es vraiment un petit connard de blanc privilégié qui trouve le moyen de pas aller bien alors que tout va bien dans ta vie, tu vois. Et du coup, c'était hard, en fait. C'était vraiment hard, et j'ai vraiment pas trop de souvenirs de cette époque, tu vois.
Oui.
Ouais, genre, c'est passé en accéléré un peu. J'étais en pilote automatique. Il n'y avait plus rien qui me... Même d'en parler, ça me... Il n'y avait plus rien qui me donnait envie, quoi. Alors que moi, je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'assez... assez enthousiaste, tu vois. Assez optimiste. Assez proactif, en fait, dans la vie. Et là, il n'y avait rien. Tu vois, j'arrivais devant la boulangère pour acheter du pain. Elle me disait qu'elle ne prenait pas la carte en dessous de 10 euros. J'avais envie de l'éclater, quoi. J'avais vraiment envie de la prendre et de la tabasser. Dans ma tête, il y avait des trucs comme ça, quoi. Qu'il n'y avait jamais eu. Où je marchais dans Paris et j'avais des espèces de hauts et de bas mais gigantesques, genre oh là là qu'est-ce que c'est beau les arbres, et une demi-heure après j'étais là qu'est-ce que je suis triste, j'allais m'asseoir devant l'opéra et je faisais rien pendant 2 heures, je regardais un mec qui jouait de la musique, tu vois, je filais des sous à tous les clochards que je croisais, genre je leur filais des billets de 20 balles, tu sais, genre pour me remettre des petits boosts de je me sens bien, tu vois. J'étais bloqué, j'écrivais plus parce que en fait j'avais écrit sur les bots, mais en fait, je me rendais bien compte que les bots, c'était pas ma passion. Et moi, dans la vie, j'avais toujours eu une. J'avais toujours envie de dire un peu la vérité, quoi. Dans mes chansons, je disais des trucs sur moi qui étaient un peu vrais. Dans mes articles, je parlais vraiment de moi. J'essayais d'être authentique parce que c'est ça que j'aimais lire. Et en fait, là, dans mes articles, je mentais un peu. C'est pas que je mentais parce que j'étais sérieux sur mon business. Je le faisais sérieusement. Mais en fait, c'était pas vraiment important pour moi, tu vois. Donc en fait tout ce que j'écrivais, c'était, j'avais l'impression de rentrer dans un truc dans lequel je voulais pas rentrer, tu vois. Et c'est pour ça qu'on était vachement différents avec Ben, parce que Ben vivait bien ça, et moi je lui montrais pas que je vivais mal parce que je me sentais coupable de pas bien le vivre. Je n'avais pas envie que mon associé s'inquiète que en fait je sois en train de péter un plomb, tu vois. J'avais envie qu'il se sente en sécurité. T'as aussi une responsabilité vis-à-vis du mec avec qui, que t'as embarqué dans un projet avec toi, tu sais. Viens, mec, on monte une boîte ensemble. C'est pour ensuite, au bout de 6 mois, lui dire, ouais, en fait, non, tu sais. Le mec, il aurait pu prendre un taf. Il est avec toi dans une boîte, là. Tu veux boire du thé? T'inquiète, hein. Et ouais, vraiment, j'étais pas bien. Et en fait, à un moment, ça a mis vachement longtemps à arriver, mais à un moment, il y a une ampoule qui s'allumait dans ma tête où je me suis dit, si tu vas pas bien, c'est peut-être pas que de ta faute, tu vois. Moi, je pensais vraiment que c'était que de ma faute, en fait. Que j'étais pas capable d'apprécier ce que j'avais, que j'étais pas, que j'étais un gros relou, que ce soit avec la fille avec qui j'étais à l'époque, ou dans ma boîte, ou que j'étais pas quelqu'un de sérieux, pas quelqu'un de compétent, un vrai professionnel, il serait pas en train de chialer dans son coin parce que, et à un moment où je me suis dit, parce que littéralement je chialais, quoi. C'était pas une image, tu vois. C'est genre je me réveillais le matin, je disais, oh, encore une autre journée de ça, quoi. Et à un moment je me suis dit, en fait, c'est peut-être pas que toi, tu vois. Peut-être que t'es pas dans le bon projet, parce que t'es pas dans la bonne relation.
Qu'est-ce qui a fait que.
Je sais pas. Franchement, je pense. Ah si, je vais te dire ce que je pense que c'est. Je pense que c'est l'instinct de survie de mon corps qui à un moment a dit stop. Parce que je me sentais tellement mal. Physiquement, mentalement, que je pense qu'à un moment ton corps il passe en mode survie et il cherche plus à réfléchir, en fait. Il dit plus, oui, peut-être, il dit, ouais, bon, c'est bon, stop, on arrête, tout dégage, on arrête parce que sinon tu vas mourir. Et vraiment, j'étais pour la première fois de ma vie, le concept de suicide m'apparaissait compréhensible dans la tête. Jamais je l'aurais fait, j'étais pas du tout là, mais très très loin, hein. Mais vraiment, j'y pensais des fois, je me disais, ah tiens, je commence à comprendre pourquoi des mecs se suicident, en fait, parce que des fois c'est tellement juste, tu t'es bloqué, quoi. Tu te dis, ça va vraiment pas, je suis vraiment pas bien, je vois aucune porte de sortie, j'ai l'impression que juste c'est de ma faute, quoi. Et en fait
si ça continue comme ça pendant 3 ans, pourquoi pas, quoi, se suicider, j'en sais rien, tu vois, c'est peut-être trop dur au bout d'un moment. Et je pense que le corps, enfin, je pense que mon corps à un moment a fait bon, allez, pht, on dégage.
Mais concrètement,
je sais pas, c'est arrivé dans ma tête et je me suis dit, il faut que je sorte. Il faut que je sorte, quoi. Et j'en ai parlé à, franchement, ça fait hyper vite, hein. Ça a pris peut-être 2 semaines, quoi, grand max. J'en ai parlé à un pote pour la boîte. Je lui ai dit, ouais, je pense qu'il faut peut-être que j'arrête. Et il m'a dit, ouais, sûrement, si tu me le dis comme ça. Et en fait, c'était un peu pareil pour la relation dans laquelle j'étais. C'était ça le plus dur, je pense, bref. Mais, et du coup, j'ai tout quitté, en fait. J'ai complètement viré toute ma vie, quoi. Et en fait, ça allait mieux, hyper vite. Ça allait mieux hyper vite, ça allait mieux mais instantanément presque. Et j'ai recommencé à m'intéresser à des trucs, tu vois. J'ai recommencé à direct, en fait. J'avais enlevé un truc et puis je reprenais ma vie d'avant, en fait. Alors, du coup, évidemment, il y avait plein d'autres angoisses qui revenaient de qu'est-ce que je vais faire dans ma vie maintenant que. Mais au moins, il y avait un enthousiasme. Et surtout, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est. Je veux plus jamais perdre cet enthousiasme, tu vois. Parce qu'en fait, ça va vite. Ça va tellement vite. Tu vois pas le temps passer. T'aimes pas ta vie, mais elle avance quand même, quoi. Et honnêtement, moi, ça, j'ai de la chance, je pense. Tu sais, on en parlait avec Marina sur le podcast. Elle a dit qu'elle était restée 4-5 ans comme ça. Mmh. Moi, je suis resté peut-être grand max 6 mois parce que le début de ma boîte, j'étais pas comme ça du tout. C'est venu progressivement à l'usure, en fait. Et en fait, je me suis dit. J'aurais pu passer 15 ans comme ça, ou 20 ans, ou 30 ans. Il y a sûrement des gens qui passent toute leur vie comme ça. Et en fait, ça passe tellement vite, et tu n'as pas l'impression d'en avoir. Et c'est pour ça que je te dis, si j'étais mort à ce moment-là, je me serais dit, putain, nul, tu vois.
Pourtant, tu avais déjà commencé Nouvelle École à cette époque ?
Ouais, Nouvelle École, c'était vraiment le rayon de soleil. Hein. Je le faisais très rarement. Mais quand je le faisais. Il y avait deux choses, c'était deux sentiments un peu en conflit. Je me souviens vraiment, ça l'avait fait avec Alexandre Dana quand il était venu. Discussion, c'était trop intéressant, je passais un trop bon moment. Et à un moment, je lui pose une question sur. Moi, je me posais vraiment des questions, hein, tout le temps. Je lui dis alors, ta boîte, mais des fois tu doutes, des fois t'en as marre. Il me dit non, jamais, je suis passionné et tout. Bon, c'était plus compliqué que ça, hein, mais en vrai, il est vraiment passionné, tu vois. Et là, vraiment, j'entends ça, mon cœur se lâche, quoi, tombe, tu vois, à 100 km de profondeur parce que je me dis putain. En fait, je suis en train de me gourer, là, tu vois. Et en même temps, le mec finit l'interview et se barre, et je me dis, putain, c'était ouf, quoi. En plus, on l'avait fait en Facebook Live, il y avait des gens qui regardaient. Il y avait personne qui regardait à l'époque. Personne n'écoutait Nouvelle École, mais juste, c'est vraiment ça dont je parlais tout à l'heure de trucs que t'aimes faire, tu vois, pour le fait de le faire. Et genre, j'adorais faire ça, Nouvelle École. Je trouvais ça trop fun et trop intéressant. Et puis, je rencontrais des mecs trop intelligents. Et j'avais besoin de ça, en fait. C'était une bouffée d'air frais, quoi. Et donc, ouais, j'avais commencé Nouvelle École, mais quand j'ai arrêté ma boîte, je pensais à arrêter Nouvelle École. Je me suis dit, il y a personne qui écoute, tu vois. Genre, c'est bien, tu fais ton truc, mais personne n'écoute Nouvelle École. C'est dur, faut trouver des gens tout le temps. Faut faire des interviews, après il y a des gens qui écoutent. Tu dis des conneries tout le temps, tu vois. je sais pas, c'est... Et, mais bon, là, il y a eu Navo qui m'a répondu. Mais c'est... En fait, il se passe vraiment des miracles comme ça, je sais pas pourquoi, mais... Navo m'a répondu le jour où je m'étais dit je vais arrêter Nouvelle École. Et une fille que je connaissais, que j'avais pas vue depuis 5 ans, m'a croisé dans Paris et m'a dit c'est trop bien Nouvelle École. Alors, absurde, quoi. Et là, récemment, je me disais, très récemment, je me disais, voilà, Nouvelle École, c'est dur, quoi. Genre, les gens croient que plus c'est connu, plus c'est facile d'inviter des gens. Et c'est l'inverse, en fait. Parce que moi, j'ai envie d'inviter des gens différents, d'autres sphères. Tu vois, moi, d'avancer aussi, quoi, dans mon podcast. Et en fait, c'est de plus en plus difficile d'inviter des gens. Parce que tu dois passer tout un tas de couches qui sont entre eux et toi, tu vois, de gens qui. De gatekeepers, enfin, de gens qui contrôlent l'accès, en fait.
Quoi, des attachés de presse?
Ouais, des mecs comme ça. Ou tu t'adresses à des gens qui sont juste méga busy, quoi, méga, méga occupés. Qu'est-ce qu'ils iraient foutre sur ton podcast? Même si t'as X milliers d'écoutes, eux ils passent sur France Inter, il y en a 1 million, et voilà, tu vois. Et du coup, c'est difficile. Et le Gringe, pour la petite histoire, c'est Navo qui m'avait filé le contact, et je lui avais écrit en mai, et je lui ai écrit 6 fois en l'espace de 3 mois, et tous les jours il y avait marqué lu ou dis, enfin, il avait lu le message, il m'a jamais répondu. Jamais.
Et je me disais, putain, mais le mec, ça doit trop le saouler, tu vois. Je lui ai écrit, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce relou avec son podcast à la con, enfin. Et comme je te disais, il y a une semaine, un truc comme ça, je l'ai relancé et le mec m'a répondu, trop sympa, genre, ouais, désolé, j'avais juste trop de taf et j'avais zappé et je vais passer. Et ça, c'était un miracle parce que le jour où il m'a répondu ça, c'est pas que j'allais arrêter Nouvelle École, mais j'étais vraiment en mode, c'est chaud quoi. Genre, j'arrive pas à ramener des gens. Je passe vraiment du temps et c'est difficile et j'ai l'impression que je vais plus y arriver, tu vois, et que je vais pas arriver à faire avancer le truc comme j'aimerais le faire avancer. Et il m'a répondu pile ce jour-là. Et je trouve que c'est hyper marrant ces trucs. Je sais pas pourquoi, mais plus ça va, plus je crois dans des espèces de karma bizarres parce que vraiment, je vois pas comment faire autrement, tu vois.
Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, donc, t'as plus ta boîte, tu fais nouvelle, c'est ton quotidien, c'est faire Nouvelle École.
Et écrire. Ouais. Je dirais que le plus important pour moi, c'est d'écrire. Mais Nouvelle École doit sortir. C'est juste ça. Mais Nouvelle École, maintenant, ça roule, tu vois. Mais Nouvelle École, j'ai jamais considéré Nouvelle École comme... Tu t'avais peut-être posé une question, non?
Non, vas-y, je t'en prie.
J'ai jamais considéré Nouvelle École comme mon projet principal. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'être podcaster. Moi, j'ai besoin, et c'est peut-être un peu, je sais pas, égoïste ou... je sais pas. J'ai besoin de faire mon truc, en fait. J'ai toujours eu besoin de faire mon truc. Nouvelle École, c'est génial. J'adore inviter des gens. Et j'essaie de les faire briller à travers Nouvelle École et en fait j'y trouve vachement de gratification parce que c'est cool de penser un peu moins à sa gueule dans un projet, tu vois, et c'est vraiment cool, mais j'ai quand même besoin, je suis câblé comme ça quoi, j'ai besoin de faire mon truc, tu sais, et en fait j'ai vraiment envie d'exploiter un genre de potentiel au niveau de l'écriture ou artistique, et dans 20 ans si Nouvelle École n'existe plus, ça va, mais en fait, dans 20 ans, je pense que j'aurais toujours envie d'écrire, tu vois. Et j'aimerais bien que. Mais bon, j'arrive très bien à concilier les deux, hein, donc c'est pas du tout un problème, tu vois. Et en plus, il y a des grosses synergies entre les deux. C'est pas comme si je faisais de la pêche et en même temps, je voulais faire. Enfin, tu vois. Donc, ouais, là, je dirais qu'en ce moment, c'est 50% Nouvelle École. Le reste, c'est que de l'écriture, si je peux. Et je gagne ma vie aussi, hein, comme ça, en faisant du freelance. Bah, en fait, c'est exactement comme quand j'aidais des gens à écrire. Maintenant, je fais ça, mais je le fais moins. J'essaie de travailler pour de l'argent le moins possible, de dépenser le moins possible et de pouvoir faire mes trucs. Et j'ai complètement lâché tous ces trucs d'argent et tout. Vraiment, c'est pas important pour moi. Parce que j'en ai assez aussi. J'ai pas envie de faire genre l'argent. Mais donc, ouais, c'est. Et en fait, j'essaie de vachement pas poursuivre les chimères, poursuivre mes trucs du quotidien. Et puis éliminer tous les trucs qui sont pas importants. Il y avait un truc de Mark Zuckerberg quand j'ai découvert sur son Facebook, sa bio à une époque, c'était Eliminate Desire, ou éliminer le désir pour les trucs. Alors c'est marrant, via un mec qui a créé la plus grosse boîte à désir du monde, mais je suis assez d'accord dans le sens, j'ai envie d'éliminer les trucs qui sont pas importants. Et en fait, j'ai envie de faire peu de choses. Tu vois, vraiment en opposition à une époque où je faisais trop de choses dans tous les sens, tu vois, j'ai quand même appris à coder, j'ai monté une boîte dans la tech, enfin là j'ai envie de faire moins de choses, de plus chiller, parce que j'ai vraiment du mal à chiller, tu vois, j'ai vraiment du mal à me détendre, à me dire c'est assez, tu vois. J'ai envie d'avoir plus de moments où je m'ennuie presque, plus de moments où genre je fais moins de choses, où le temps, je laisse le temps marcher, parce que le temps c'est quand tu crois vraiment que tu vas t'en sortir sans l'expérience. Quand t'es ado, tu crois que tu vas trouver tous les hacks et les raccourcis qui vont te permettre d'aller plus vite que tous les autres abrutis qui sont au-dessus de toi parce que tu les prends pour des abrutis, alors qu'en fait, quand tu grandis, tu te rends compte que c'est l'éternel recommencement de l'humanité, c'est qu'en fait, ils disent pas que des conneries les gens qui sont plus vieux que toi, et que évidemment que l'expérience, vivre les choses, les intégrer, le temps, la patience jouent énormément. Ouais. Tu peux lire 200 000 bouquins, mais... Tu peux lire 200 000 bouquins sur la dépression, mais si t'as pas été en dépression, tu t'as rien compris, quoi. Tu vois ce que je veux dire sur le sujet.
Du coup, là, tu te sens... Tu t'es pas fixé une prochaine étape, comme quand t'habitais Grenoble, tu te disais « je vais habiter Paris ». Ou est-ce que t'as encore des sortes d'horizons comme ça ?
Non, c'est « je veux plus vivre selon des objectifs ». Je veux vivre selon des thèmes, en fait. Mes thèmes, c'est « est-ce que je suis créatif ? Est-ce que je suis avec des gens que j'aime et qui sont des gens positifs ?» Très très important, c'est le plus important, je pense. Tu vois, des gens, quand t'es avec eux, tu te sens bien, tu vois. C'est pas ils partent et t'as l'impression que tu vas mourir. Parce que ça veut dire que c'est pas des bonnes relations. C'est pas forcément que c'est des bonnes ou pas bonnes personnes, c'est que c'est des mauvaises relations. Donc les gens, être créatif, essayer d'être un peu d'être sain. Tu vois, et c'est principalement ça, quoi, en gros. Mais c'est vraiment la créativité tous les jours.
Pour toi, c'est l'écriture, alors.
Ouais, mais ça peut être plein d'autres choses. Parfois, peut-être que je vais jouer de la guitare ou je vais. Je sais pas. Tu vois, là, je vais écrire des trucs pour l'image.
Pour l'image.
Enfin, qu'on va adapter en image ensuite, tu vois. Donc, pas forcément des. Mais ouais, ouais.
Et même... Attends, tu le fais avec qui ? C'est quoi ?
Ouais, ça, c'est avec un pote. Mais ça, je veux pas trop en parler parce que en fait, tu sais, tu le disais tout à l'heure, tu parles trop de tes idées, tu les fais pas. Et donc maintenant, en fait, quand je commence un truc, j'essaie de moins en parler. Parce que sinon, je le fais pas, je m'en rends compte. Parce qu'en fait, il y a Navo qui dit un truc, c'est qu'il dit qu'une idée, c'est comme une drogue. Et quand t'as l'idée, c'est ah, tu te sens trop bien. Et quand tu finis d'avoir construit ton idée, tu te sens trop bien. Mais entre les deux, il y a tout un passage où il faut la faire. Et ça, c'est chiant. C'est dur, c'est nul, c'est ingrat. Et là, je suis dedans sur plein de trucs. Et je veux surtout pas revivre toutes les fois où j'ai dit à des gens que je faisais des trucs et je finissais par pas les faire. Et j'ai juste envie de faire mon truc, d'en parler à pas grand monde et d'ensuite d'arriver quand ce sera fait, tu vois. Mais ouais, être créatif, être avec des gens que j'aime bien, qui apportent du positif dans ma vie, tu vois. Et être relativement sain. Et globalement, si j'arrive à maintenir cet équilibre-là, je suis content, et évidemment, ouais, j'ai envie de produire des trucs et de sortir des choses, etc. Mais j'essaie de pas me dire, ah, le jour où j'aurai écrit mon premier best-seller, qu'est-ce que je serai heureux? Parce que c'est faux, tu vois. C'est pas juste parce que je sais que c'est faux que j'arrive à être heureux, mais en tout cas, j'essaie de me dire le plus possible que c'est pas comme ça que je vais l'être.
C'est quoi ce que tu cherches dans la créativité? C'est plusieurs fois que tu dis ce mot.
Ben, je cherche rien, en fait, j'ai besoin de ça pour me sentir bien. Il n'y a pas de recherche, c'est plus un besoin. C'est qu'en fait, sinon, je me sens pas bien, je me sens malheureux. Mais je pense que tout le monde est créatif et que la plupart des gens ne l'exploitent pas parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas créatifs, mais que c'est faux. Tu vois. D'ailleurs, tu sais, on a tous les deux lu ce bouquin sur The Artist Way, ou je sais pas quoi. Et j'y crois vraiment à ça. Je pense qu'on a besoin d'être créatif, tu vois. Mais n'importe quel. D'ailleurs, quand tu parles aux gens, c'est pas compliqué. Les gens qui sont heureux dans leur taf. Mais de quelque manière qu'ils te le présentent, c'est parce qu'ils sont créatifs. Donc peut-être qu'ils sont créatifs, ils dessinent pas forcément, c'est pas ça la question, mais peut-être qu'ils doivent trouver des solutions à des problèmes nouveaux souvent, et du coup faut qu'ils réfléchissent, tu vois, la créativité elle prend plein de formes, mais tout le monde en a besoin, et moi j'en veux le maximum, tu vois, j'en veux le max, quoi. C'est-à-dire que je veux je veux être créatif sur des nouvelles choses aussi, tu vois. Tu me disais la dernière fois qu'il faudrait peut-être que j'essaie de faire du stand-up, bah ouais, je pense que je vais essayer à un moment de faire ça, et je vais essayer de si quelqu'un me propose de prendre un cours de violon, je vais le prendre, c'est sûr. Ah oui, j'ai oublié un dernier thème, c'est jouer. Je veux beaucoup plus jouer. En fait, je veux vraiment me rapprocher de commenter quand t'es gamin, quoi. Je veux qu'on oublie trop ça, et tu deviens adulte, et tu crois que quand t'es adulte, en fait, ça veut dire que c'est chiant, et que voilà, t'es adulte, et t'as plus le droit de t'amuser, t'as plus le droit d'être créatif, t'as plus le droit de dire quand t'es triste, ou de dire la vérité, tu sais. T'as plus le droit de dire aux gens, je suis malheureux, parce que sinon t'es un loser. Et moi je suis pas d'accord avec ça, quoi. Genre moi les gens que j'aime, c'est des gens qui osent dire qu'ils sont pas heureux ou qu'ils sont, tu vois, genre j'ai envie d'un monde avec moins de masques. Et donc moi comment je me l'applique, c'est au quotidien en étant le plus créatif possible etc, quoi. Mais j'ai pas la clé du bonheur, hein. Genre moi tous les soirs quand je vais me coucher, je me dis ah, ma vie c'est n'importe quoi, je suis nul et tout. Non, mais ça je travaille dessus, tu vois.
Et le podcast, t'as appris des choses, t'as inspiré là-dedans.
Ouais, le podcast, c'est ouf en vrai. J'en suis trop fier de ce truc. Parce que je pense vraiment que c'est bien. Et c'est un peu pour la première fois de ma vie. Y a d'autres choses. Hein, non, parce que quand je faisais de la musique à l'époque, je trouvais que c'était bien aussi. Mais déjà, je suis vraiment fier du truc, tu vois. Et moi, vraiment, je m'étais dit, déjà, c'était vachement pour moi que je le faisais, mais quand même un peu pour les autres. Et je m'étais dit, s'il y a une ou deux personnes qui peuvent venir me voir et me disent, c'est cool, ça m'a inspiré, ou j'ai passé un bon moment, ou ça m'a donné envie de ça m'a rapproché de cette mentalité de je veux avancer, faire mes trucs, pas me sentir bloqué tout le temps, tu vois. Je me disais, bah, si quelqu'un me dit ça, je serais content, mission accomplie. Et là, clairement, il y a plein de gens qui me disent ça, et ça a l'air de plaire à des gens qui écoutent, je reçois des messages de gens que ça motive, il y a des gens que j'invite sur le podcast qui l'écoutent, tu vois, ou qui ensuite, une fois après être passé, je sais qu'ils les écoutent parce qu'ils les retweetent, les épisodes, ce genre de choses. Ça, pour moi, c'est ouf. Ça veut dire que le truc est quand même bien parce que eux-mêmes, ensuite, les gens que je veux inviter, eux-mêmes l'écoutent ensuite. Donc déjà, j'en suis hyper fier. Et ça me conforte dans le fait que tu sens les bonnes choses pour toi. Et quand tu fonces dedans, je trouve que la vie te récompense vachement, en fait. Tu vois, genre, je sentais depuis longtemps que Nouvelle École, c'était un bon truc. Que c'était un truc positif, avec que des bonnes vibes, quoi. Et quand tu te lances dedans à fond, ma vie, c'est un miracle, ma vie avec Nouvelle École. Il se passe des trucs, mais, je sais pas, il y a eu Gringe cette semaine. Et Gringe, quand il arrive chez moi, je peux faire genre, ouais, salut mec, ça va? Oui, bon, on discute et tout. Mais en vrai, je suis une putain de groupie. Alors, mais je le montre pas, parce qu'en fait, t'es soit. Il y a une phrase en anglais, c'est you're either a friend or a fan. Et c'est ça, quoi. Soit t'es un ami, soit t'es une groupie. Et moi, je suis une méga groupie. Genre, Gringe, il se rend pas compte, mais j'ai écouté ces trucs depuis que j'ai 15 ans. Moi, Perdu d'avance, c'est l'album d'Orelsan. C'est un des albums les plus fondateurs dans ma vie. C'est sorti quand j'avais 16 ans dans mon village de merde. C'était tellement important pour moi. Je l'ai écouté un million de fois. Je connais toutes les paroles par cœur. Et Gringe, il était là-dedans. Et en fait, pour moi, de rencontrer Gringe, c'est ouf. Tu vois, si je disais à Antonin à 12-13 ans, bien, dans quelques années, tu vas passer 2 heures avec Gringe et vous allez parler en tête à tête, il n'y aura personne et vous serez à la cool, il me dirait ouais, ça c'est cool, tu vois. Ça, clairement, vas-y, tu vois. Et si je lui disais, ouais, dans 10 ans ou 15 ans, tu seras en train de monter une boîte qui fait je sais pas quoi, il me dirait bof, quoi. Et je pense que ça, c'est important, tu vois. Et donc, ce que ça m'a apporté aussi, Nouvelle École, à part le fait que ce soit génialissimement, c'est un cadeau, quoi, tout le temps. Et le fait de recevoir des messages des gens, c'est ouf. Quand tu te dis, il y a des gens qui m'écrivent des trucs, mais c'est tellement sympa, et en plus, ça a l'air de tellement les inspirer, et ils en parlent à leurs potes. Déjà, tu te dis, forcément, tu trouves un peu du sens à ton action, puisque c'est un peu tout ce qu'on cherche tous. T'en trouves par la force des choses, parce que les gens te disent que ça a du sens pour eux. Donc, il y a tout ça. Moi, c'est clairement ma thérapie. Je dirais que je vais quand même de mieux en mieux dans la vie, mais en vrai, pourquoi mon podcast c'est Psychologie 101, c'est parce que genre je me pose vraiment ces questions. Quand je demande à, reprenons l'exemple de Gringe, hein, quand je demande à Gringe comment il s'est senti quand Orelsan a explosé, mais c'est parce que moi aussi j'ai vécu des trucs comme ça.
Donc Orelsan, c'était
son pote.
Un très bon pote.
Ouais, ouais.
Et c'est devenu une énorme star.
Ah ouais, c'est devenu une énorme star, et Gringe, il a mis un peu plus longtemps avant d'être connu. Et quand je lui demande ça, c'est parce que moi aussi j'ai vécu des trucs comme ça de réussite fulgurante de gens autour de toi, et du coup tu réussis pas, et en plus tu t'es pas forcément bien dans ta peau, et du coup tu te sens mal. Et je lui pose vraiment les questions que je veux lui poser parce que ça m'intéresse aussi, tu vois. Donc c'est vraiment ma thérapie. J'ai envie de savoir ce qu'il ferait à ma place, tu vois, ou comment il pense la chose. Et enfin, dernière chose, c'est vraiment démystifier, et pour moi ça le fait aussi, parce que je rencontre Gringe, encore une fois, même il y a 6 mois, il était sur une autre planète pour moi. C'est un mec que j'avais vu qu'à la télé ou sur YouTube. Il existe même si maintenant je commence à travailler ça, mais il n'existait pas, quoi. C'était inaccessible, tu vois, c'était un autre monde. Et en fait, il vient chez moi, on s'assied, on discute, le mec est cool, et voilà, c'est un mec cool, c'est un mec normal comme tous les gens qui font des trucs, en fait. Et si ça le fait pour moi, cet effet, j'espère que ça le fait pour les gens qui écoutent, parce que c'est vraiment ça qui est important. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment de se dire, j'ai pas moins de chance, j'ai pas moins de capacité, j'ai pas... En fait, c'est pareil. Et la plupart des trucs qui bloquent les gens, c'est que ça, c'est de l'autocensure. Et moi, j'essaye de plus m'autocensurer, j'ai encore du mal, mais j'avance vers ça, et en ça, ça me sert beaucoup, et tu vois, j'espère que ça sert aux gens.
Puis il y a une question que tu poses beaucoup dans tes podcasts, qui est qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas peur ?
Ouais. Eh ben, en fait, celle-là, je la pose de moins en moins parce que finalement, je trouve qu'elle est moins intéressante. Mais moi, je me la suis beaucoup posée. Tu me l'aurais posée il y a 2 mois, je t'aurais dit que je ferais de la musique. Mais comme tu sais, puisqu'on était ensemble en vacances, je me suis mis à faire de la musique. Je me suis dit, vas-y, on arrête de... Ça fait longtemps, ça faisait des années que je me disais, en fait, je suis sûr que je veux refaire de la musique, c'est ça ma vraie passion, c'est... j'ai envie de faire des concerts et tout. Et donc, j'ai acheté un logiciel, j'ai acheté un cours en ligne pour... Je me suis dit, bah vas-y, je vais arrêter avec les histoires de guitare et tout, parce qu'on est quand même en 2017. Je vais apprendre à faire de la musique. Puis j'aime bien le côté, t'es tout seul, tu fais tout, quoi. Tu fais les drums, tu fais la basse, tu fais tout. Et j'en ai fait pendant genre un mois. Et puis en fait, après, j'ai arrêté d'en faire et puis je suis plus retourné.
Ça te plaisait pas ?
C'est pas que ça me plaisait pas. Ça va, mais je m'en fous, quoi. Ça va, mais j'ai d'autres trucs. J'ai beaucoup plus envie d'écrire, tu vois. Et la preuve, c'est que je vais tout seul naturellement écrire et que je vais pas naturellement jouer de la musique. Tu vois, là, j'ai une guitare. Parfois, j'en joue pour le fun parce que je sais toujours en jouer. Des fois, j'ai envie d'en jouer un peu, mais c'est clairement un fantasme. Peut-être que ça reviendra plus tard dans ma vie que j'aurai envie de refaire de la zik, mais c'est pour l'instant, c'est un peu un fantasme. Regarde, là, j'ai une guitare, celle là-bas, que j'ai achetée quand j'étais à San Francisco et que j'avais du blé à l'époque. Je m'en suis jamais servi. Elle coûte une fortune, cette guitare. Vraiment, je vais la vendre, c'est sûr, parce que je m'en suis jamais servi. C'est... Mais vraiment, quoi. C'est... Et donc, je t'aurais dit, je fais ça. Maintenant, si j'avais pas peur, honnêtement, actuellement, ce dont... enfin, si j'avais pas peur, peut-être que je m'ouvrirais un peu plus à la possibilité d'une relation amoureuse, ou tu vois. Mais j'ai peur pour le coup là. Vraiment, parce que quand t'es, tu vois, quand t'es, on dit pas aux garçons quand ils sont petits que, mais aux filles non plus, je pense, hein, que tu t'en chies quand même en amour, quoi, vraiment. Et je pense qu'on prend tous ça un peu dans la gueule. Il y en a qui ont peut-être plus de chance que d'autres, qui, et puis peut-être que plus les gens sont stables et heureux, et plus leurs relations sont stables et heureuses aussi, tu vois. Moi, je sais que c'est un truc qui m'affecte beaucoup et que j'ai vraiment eu plusieurs dans ma vie. J'en ai eu quelques-unes très très fortes et très douloureuses, en fait. Et du coup, c'est ça, je sais pas comment, ça prend du temps, je pense, ensuite, de se remettre dedans, de d'accepter que tu vas réouvrir ta petite âme fragile, tu sais. Donc voilà ce que je... Mais tu vois, si j'avais pas peur, ouais, peut-être que je serais plus open à ça, tu vois. Je pense qu'en ce moment, je suis très dans mon taf, dans mes trucs. Et en fait, je pense même pas que la porte soit vraiment ouverte, tu vois. Parce que je pense que je me suis pas encore vraiment remis de mon dernier truc. Même, je me suis pas remis de mon dernier truc. Voilà ce que je ferais si j'avais pas peur.
Il y a des interférences entre ça et ton écriture ? C'est des thèmes que tu...
L'amour ? Ouais, après, je fais attention, comme je te disais tout à l'heure. La règle, c'est j'ai le droit de me faire mal à moi. Donc, j'ai le droit de parler de moi, mais j'ai pas envie de parler des autres, tu vois. J'ai pas envie de parler de mon ex ou d'une autre ex, ou tu vois.
Donc, tu écris des choses qui sont...
Je peux écrire que des choses qui sont du ressenti à moi, mais jamais je peux parler de la personne en disant elle a fait ci, elle a fait ça, c'est hors de question. Parce que... Mais déjà, parce que j'y comprends rien moi-même, tu vois. Je saurais pas te dire la faute de qui... C'est toujours un truc à deux, c'est un truc indéchiffrable. Et moi, évidemment, que j'ai mille fautes là-dedans, tu vois. Mais moi, je peux parler de mes fautes et me tromper, mais je peux pas parler des autres. J'ai pas le droit de faire ça. Et je l'ai fait à une époque. Je sais que une fois, il y a quelques années, j'ai parlé d'une autre relation. J'avais écrit un article et je voulais vraiment pas du tout dire de mal de la personne. Je disais plutôt du bien, mais en fait, j'avais pas très bien écrit le truc. C'était pas très clair. Et c'était pas clair. Et elle m'avait défoncé, mais elle avait raison parce que je l'avais un peu affiché devant tout le monde, tu vois. Je l'avais un peu affiché, quoi. Tout le monde savait qui c'était. C'était pas son nom, mais tout le monde savait, quoi. Et moi, je lâchais un peu mes tripes sur le truc. Et je veux pas faire ça. Je veux vraiment faire attention. Je pense vraiment faire attention aux gens, tu vois. Et donc il y a des interférences. Ouais, j'en parle vaguement parfois, mais je fais attention, quoi. Je prends des pincettes et j'essaie de parler de moi. Ok, il y a pas de problème, on peut tout dire. Et moi, j'ai pas trop de problème avec le fait de m'ouvrir, mais c'est pas le cas de tout le monde et je respecte ça, quoi.
Et du coup. Quand t'écris, ça répond à un besoin de créativité. Est-ce que tu penses aux gens qui vont te lire? Est-ce que tu... Et de la même façon, quand tu as un podcast, comment tu penses, de quelle façon tu penses à tes auditeurs?
En fait, faut jamais oublier que des gens vont le consommer ou le lire ou l'écouter. Et il faut aussi toujours l'oublier, en fait. C'est marrant, mais tu peux pas faire un truc bien si t'as en tête ce que les gens vont en penser. C'est impossible. Donc il faut partir de soi, toujours. Alors, moi, je lis des trucs sur comment écrire, comment machin, et les gens disent tout et son contraire. Moi, le seul avis que j'ai, que j'ai lu de gens très très bons, quoi, Stephen King et tout, c'est t'écris pour toi. C'est tout, quoi. t'écris vraiment pour toi et mon podcast, je le fais pour... Et en fait, dans la vie, tout est comme ça, je pense. Et mon podcast, je le fais pour moi, d'abord, avant tout. C'est vraiment pour moi. Ensuite, ça t'empêche pas, une fois que tu l'as fait pour toi, de prendre les autres en considération. Mais il faut le faire pour toi. Et d'ailleurs, Stephen King, il dit un truc vachement intéressant dans son bouquin On Writing. Il dit le premier draft de ton, le premier brouillon, enfin le premier draft de ton bouquin, tu l'écris avec la porte fermée. Et le deuxième, tu l'écris avec la porte ouverte. Ça veut dire le premier, il n'y a personne qui interfère, c'est que pour toi. Et ensuite, les gens rentrent dedans et tu les prends en considération. Parce que tu vas quand même écrire pour une audience. Par exemple, tu vas pas raconter les trucs ultra perso sur des gens qui a eu dans ta vie, tu vois. Ou peut-être, mais il faut y réfléchir. Faut pas le faire d'un coup sans réfléchir. Il y a plein de choses comme ça. De la même manière, dans un podcast, faut aussi que je me dise qu'est-ce que les gens en retirent. C'est pas juste toi qui raconte ta life pendant. Bah non, pour le coup, si cette fois-ci. Mais c'est pas juste toi qui raconte ta vie pendant 2 heures. Il faut quand même que les gens en tirent quelque chose parce que sinon ça les intéresse pas. Donc après avoir fait une interview, je vais l'écouter et je vais me dire. Ok, là j'ai peut-être un peu trop fait ça, peut-être j'ai pas assez fait ça, tu vois. Et je vais le prendre en compte, mais je vais quand même toujours essayer de moi. Et je me rends compte à chaque fois que je trouve que c'est vraiment une bonne interview, c'est quand vraiment j'avais envie de la faire. Vraiment j'avais envie de poser les questions que j'ai posées. J'étais intéressé personnellement, je les posais pas pour mon audience, je les posais pour moi. Et là-dessus, tu peux penser, tu vois, tu peux parsemer ça de trucs pour ton audience, tu vois, t'y penses. Mais il faut vraiment que ça arrive ensuite, quoi, je pense. Voilà.
Mais au rythme où tu publies Nouvelle École, c'est pas difficile de, si en plus t'écris, de t'intéresser vraiment à chaque personne, de préparer tes interviews, d'avoir le temps d'avoir les vraies questions.
Bah non, parce qu'en fait, il faut juste trouver des gens qui t'intéressent. Mais je t'avouerai sans rien citer qu'il y a eu des fois où j'avais moins envie de le faire et je pense que ça se ressent. Mais du coup, j'ai compris, ça aussi, c'est une leçon pour moi aussi. Il y a un moment où je me suis dit, c'est pas possible, ça va pas continuer comme ça, Nouvelle École, parce que j'y prends moins. Il y a des fois où je me suis dit, j'y prends moins de plaisir, là, j'ai pris moins de plaisir. J'avais l'impression de faire mon job, mais j'ai pas envie de faire un job. J'ai envie demain d'interviewer un mec qui fait des pains au chocolat et d'avoir envie de le faire et de lui poser des questions. Et parfois, je reçois des messages d'auditeurs qui me disent ouais, c'était mieux quand tu faisais que des trucs de start-up, ou ouais, là, tu parles trop de ci, trop de ça. Et parfois, ils ont raison. Et c'est de la critique qu'il faut que j'intègre, et parfois c'est juste je veux que ce soit comme ça, Nouvelle École. Et du coup, si ça vous plaît pas, c'est pas très grave. Vous pouvez, il y a plein d'autres podcasts, tu vois, et c'est pas grave, mais moi en fait, il faut que je sois en accord avec ce que je fais et que ça me plaise, quoi. Il faut d'abord que ça me plaise, mais n'importe quel projet, il faut d'abord que ça te plaise. Sinon, tu te mens. Pour revenir encore à la même question, et sinon tu peux pas faire un truc de qualité. Et moi, tant que Nouvelle École me plaira et sera fun, je continuerai. Et si un jour j'ai l'impression que j'arrive plus à le faire sans que ce soit un taf, j'arrêterai, c'est sûr.
Et dans les futurs invités, qu'est-ce que tu vois en fait ? Tu dis que tu pars d'un univers un peu start-up et tu diriges vers quoi ?
Bah, j'ai envie que ce soit assez large. Mais les thèmes, c'est vraiment se lancer, faire des choses. Donc les gens, il faut qu'ils soient quand même... Il y a un côté indépendant, tu vois. Vraiment, c'est ça qui est important. C'est le côté, on est indépendant, on se lance. Ou alors, on s'est réinventé, on a changé de... On est sorti des cases, tu vois. Donc moi, j'aimerais bien inviter des grands entrepreneurs. J'aimerais inviter des artistes. Mais j'ai pas envie que ça devienne le podcast du showbiz du tout, tu vois. Donc c'est pas trop du tout mon objectif. Et honnêtement, j'aimerais bien inviter des gens qui ont des parcours vraiment spéciaux, atypiques... Tu vois, des types, par exemple, qui font des trucs un peu enfin, auxquels tu penses pas en général, mais qui sont très très forts dans leur truc, tu vois, qui sont genre excellents, hein, je sais pas, peut-être qu'il y a un champion du monde de pêche à la ligne, tu vois, j'en sais rien, et ce serait intéressant. Comment est-ce que t'en arrives à devenir ultra méga fort en pêche à la ligne ? Exemple pris au hasard, hein, fictif. Mais donc voilà ce qui m'intéresserait. Je te dis, je veux vraiment que ce soit large, qu'on s'enferme pas, qu'on hiérarchise pas les velléités entrepreneuriales des gens, en fait. Et que tout le monde puisse déjà découvrir des choses, apprendre, et aussi se retrouver en fait dans les gens que je ramène. Donc c'est vraiment ça mon objectif, et pour l'instant je suis hyper content de comment ça se passe, tu vois. Donc je suis assez intéressé, enthousiaste de voir la suite. Et
il y a de plus en plus de femmes invitées aussi dans Nouvelle École.
Non, justement il n'y a pas de plus en plus de femmes invitées. Il y en avait beaucoup, je trouve, plus au début. J'essaye d'en inviter, honnêtement. J'essaye, je fais de mon mieux. C'est plus facile d'inviter des mecs, ouais, parce que moi je suis un mec, j'ai plus de potes mecs, je pense. Et puis tu sais, dans le réseau business, à la base, t'as beaucoup de mecs. Hein. Alors oui, il y a beaucoup de trucs qui sortent en ce moment. Oui, il y a aussi des femmes, c'est vrai, il y a aussi des femmes, mais il faut plus les chercher en vrai. Et elles sont beaucoup plus sollicitées.
elles sont méga sollicitées, les femmes, parce que tout le monde veut ramener des femmes sur son truc. Et du coup, c'est ultra dur de les avoir. Parce que elles sont, tout le monde les veut. Et du coup, et moi, j'ai pas envie de ramener des femmes parce que c'est des femmes. C'est pas mon truc. Genre, je veux ramener des femmes parce qu'elles font des trucs ultra intéressants. Et il y en a plein. Et du coup, c'est pas. Mais juste, il faut, comme avec les invités mecs, faut que je réfléchisse, faut que j'étudie leur truc, faut que je regarde leur parcours, faut que je regarde ce qu'ils ont fait. Mais là, il y en a qui arrivent, là. Il y a du. Je taffe dessus. Et de toute façon, moi, j'adore inviter des femmes. Genre, je passe souvent des meilleurs moments, d'ailleurs. Parce que, je sais pas, c'est moi, j'ai grandi, j'ai été élevé par une femme et j'ai toujours eu beaucoup de potes filles, en fait. Des très bonnes. D'ailleurs, c'est pas un hasard. J'ai souvent fini par sortir avec, mais j'ai toujours été très proche de filles, en fait. Très, très proche. Et à peu près à n'importe quel moment dans ma vie, j'avais genre une meilleure pote avec qui je passais tout mon temps. Presque plus que des meilleurs potes mecs avec qui je passais mon temps. Donc, voilà, pour la question des femmes, ça va continuer. J'aimerais bien, honnêtement, que ce soit le plus équilibré, mais bon, je fais de mon mieux, quoi. Eh ben, ça va en faire du Antonin Archer dans les oreilles des gens.
Ouais.
Non, mais c'est pas mal, hein. Une heure et demie de...
Ouais, là, c'est cool.
Ouais.
Bah, j'espère que tes auditeurs qui se posaient des questions sur toi en savent plus.
Ouais, là, je pense que ça va. Il y a le frère là. Mais moi, je me suis fatigué là, à force de parler
ah
de
ouais
moi. Non, non, je déconne, ça va.
Non, moi, j'étais pas fatiguée.
Ça va.
De toute façon, j'ai l'impression que Nouvelle Colle, c'est une sorte de dialogue de façon assez intime entre des gens qui se rencontrent et que les gens qui s'intéressent à toi. Au fil des interviews, en fait, ils en apprennent de plus en plus parce
ouais
que tu poses certaines questions, tu choisis certains invités, comme tu le disais. Et voilà. Mais écoute.
Merci beaucoup, Soline.
Merci à toi.
De m'avoir fait passer sur Nouvelle École.
Je t'en prie.
C'était cool. Merci.
Ouais.
Et j'espère que les gens vont apprécier. Et puis, de toute façon, on verra bien. Voilà.
Donc si les gens veulent en savoir plus sur toi, où est-ce que tu les renvoies?
Sur cet épisode de Nouvelle École, ils peuvent l'écouter encore une fois. Je sais pas, franchement, tu tapes mon nom sur Google, maintenant ils commencent à avoir plein de trucs. Si les gens écoutent ça, c'est qu'ils sont sûrement déjà sur les trucs que je publie, donc c'est cool. Et puis on va sûrement organiser un truc, un drink ou un machin avec les gens.
Cool.
En plus, c'est des gens qui donnent de l'argent, et moi comme... je suis pas méga organisé, il y a des fois où j'oublie de checker, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ont donné des sous et je me dis putain c'est trop sympa et je me dis t'es tellement nul de pas encore avoir organisé un truc avec eux et donc voilà, je vais essayer d'être un peu plus au taquet là-dessus.
Cool,
voilà.
Trop bien.
Merci Céline.
Merci d'avoir écouté, si vous êtes encore là, déjà bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple, lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone, cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles, 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut!